Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Richard de Seize.
Chers amis, bonjour. Les médias sont contrôlés, mais nous sommes incontrôlables. Debout les Français, ce sera avec Véronique Le Floch, concurrence déloyale et politicien haineux. Mais pourquoi diable la France ne défend-elle pas ses agriculteurs? Et nous enchaînerons avec Nicolas Vidal, qui signe un peuple en trop excellent petit pamphlet que j'ai lu, les post-it le prouvent. Défendre la cause du peuple, nous en parlerons avec lui et Alexis Poulain nous rejoindra. Et enfin, le bloc centriste découvre brusquement les méfaits de l'immigration. Et ce sera avec Charles-Henri Gallois qui revient sur la manière dont brusquement Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin et d'autres ont l'air de considérer que l'immigration pourrait poser problème. Prise de conscience tardive ou tentative assez balourde de draguer l'électorat de droite. Eh bien, on verra ça avec lui avant que Rémy Tell ne nous parle de cette décision assez surprenante d'un hôpital qui a décidé de virer tous les aumôniers pour faire en sorte d'alléger la masse salariale et sans doute préparer une euthanasie encore plus joyeuse. Et sinon, bien sûr, Alexis Poulain, Pascal Pointu et Alexandre de Galzin nous napperont de leur chronique délectable. Et tout de suite, d'ailleurs, Alexandre de Galzin va nous parler un peu d'actualité.
Je vais vous napper. Bonjour chers auditeurs. Après 11 semaines d'audience, le procès en appel de Nicolas Sarkozy s'est achevé par la plaidoirie de la défense cette semaine. Si la peine requise de 7 ans d'emprisonnement est la même qu'en première instance, le procès a eu cette fois une toute autre physionomie, marquée notamment par la division entre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, ainsi que par la présence continue des victimes du vol UTA 772. Moins médiatisé que le premier, ce procès devrait aboutir à une décision finale radicalement différente de la première, selon la plupart des experts. Ce sera tout ou rien. L'ancien président de la République, de son côté, plaide toujours une innocence totale.
Eh bien, on verra bien. Et c'est une nouvelle un peu surprenante, mais Macron aurait pris une décision intelligente.
C'est parce que j'avais écrit, oui. Richard, c'est une idée qui effectivement était intéressante sur le papier, mais visiblement déconnectée de la réalité. La Cour des comptes s'est attaquée à la décision d'Emmanuel Macron de renationaliser intégralement l'entreprise d'État EDF. La prise de contrôle établie en 2022 avait coûté près de 9,7 milliards d'euros pour des avantages, je cite, difficilement identifiables selon l'institution, qui ajoute que la nécessité de l'opération, je cite à nouveau, n'est pas démontrée à ce stade. Elle souligne également que dans un contexte de crise économique et budgétaire, l'État devra contribuer à des besoins d'investissement massifs pour EDF, notamment 72,8 milliards d'euros prévus pour la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires, étant donné qu'il est désormais l'unique actionnaire de l'entreprise.
Et en période d'euthanasie, les francs-maçons sortent du bois.
Oui, tout à fait. Cela fait désormais plusieurs mois que plusieurs loges francs-maçonnes œuvrent à l'Assemblée nationale pour faire avancer leur agenda pro-euthanasie. Mais voilà que le Grand Orient de France veut également peser sur l'élection présidentielle de 2027. Le grand maître Pierre Bertinotti s'est ainsi récemment exprimé dans les colonnes de l'Obs, réaffirmant solennellement que, je cite, l'appartenance au Rassemblement National était interdite, voilà, dans sa secte. De même, s'il rencontre autour avec plaisir des personnalités du bloc républicain comme la pro-euthanasie Yael Braun-Pivet, François Hollande ou Édouard Philippe, il refuse de s'adresser à Jean-Luc Mélenchon dont les positions communautaristes seraient en opposition avec l'obsession athéiste des francs-maçons.
Eh bien, enfin une division. La notion de cessez-le-feu semble assez ambiguë pour Trump et Netanyahou.
Absolument, Richard. Alors qu'un cessez-le-feu a théoriquement cours dans la région, de nouvelles frappes émanant d'Israël ont eu lieu au Liban, par-delà la théorique ligne jaune fixé par le gouvernement de Netanyahou. De même, les États-Unis ont renouvelé leurs frappes dans un contexte de négociations tendues en Iran. Pourtant, Téhéran et Washington, sans parvenir vraiment à une issue dans le conflit, ont négocié pour établir un nouveau cadre de prolongation de l'arrêt des combats, en attendant mieux.
Ben voilà, c'est le feu à géométrie variable sont une vraie joie en fait. Une attaque terroriste a eu lieu hier.
Oui, on apprenait hier sans grand émoi des grands médias nationaux qu'un Turc de nationalité suisse de 31 ans avait poignardé au moins 3 personnes, dont une grièvement, au cri d'Allah Akbar près de la gare de Winterthur en Suisse. Écoutez plutôt. Voilà, entre ça aujourd'hui et Alice Meunier hier et son muezzin, on est pas mal quand même en termes d'islamisme sur Radio Courtoisie.
En tout cas, on fait tout pour tenir compte de la diversité culturelle nouvelle.
Voilà, exactement. Alors, la Nouvelle France, c'est nous. Nepsidé, déjà connu pour sa radicalisation islamiste, était favorable à l'intervention de la mise en place de la charia. L'attaque intervient d'ailleurs dans un contexte très particulier dans le pays alpin, alors qu'un grand débat national a cours au sujet de l'immigration et du projet 10 millions, consistant à établir une liste d'une limite du nombre maximum d'habitants dans le pays.
Un petit mot de sport ?
Alors, on va pas lâcher Roland Garros, hein, ça ne dure jamais que 2 semaines par an. Hier, 2 grands chocs ont ébranlé la terre battue de la Porte d'Auteuil. Le premier est la défaite surprise du numéro 1 mondial Yannick Sinner, ultra favori réputé imbattable dans ce tournoi, vaincu en 5-7, c'est moins l'Argentin Cerundolo qu'une blessure à la hanche qui a poussé l'Italien vers la sortie. Et puis, autre choc, la victoire du jeune espoir français Moïse Kouamé. On écoute.
C'était un très beau match.
À seulement 17 ans.
Ouais, très beau match. Et puis, c'est une première depuis 2003 qu'un jeune homme de seulement 17 ans atteint le 3e tour du tournoi. Et la dernière fois, il s'agissait d'un certain Raphaël Nadal. Et
mais voilà qui augure bien. Ou alors, sinon, ça va faire comme tous les jeunes espoirs français.
Arrêtez,
il va s'écrouler
Richard,
d'ici 3 ans.
C'est
mais oui, mais c'est comme ça. C'est la défaite assurée. Pardon, excusez-moi. Il va faire beau ?
Oui. Mais à part si vous voulez être à nouveau pessimiste, donc des températures, grande douceur ce matin, avec des températures qui iront malheureusement jusqu'au canicule sur la totalité de la journée, sauf en Normandie. En température, nous aurons donc une 20aine de degrés un peu partout sur le pays, à Lille, au Mans, à Chartres, à Paris, 16 degrés à Cherbourg. Dans l'après-midi, on atteindra 32 dans le Grand Est, 32 sur les Hauts-de-France, 35 en Ile-de-France et jusqu'à 30 degrés autour du Golfe du Lion. Et nous célébrons ce 29 mai Saint-Émar, Sainte-Géraldine, Saint-Martory et Saint-Maximin. Et Saint-Émar, pour information, c'est un inquisiteur tué par les Albigeois. Voilà.
Voilà, comme quoi. Merci beaucoup, Alexandre de Gazin.
Ligne droite.
Et bonjour Alice Meunier.
Bonjour Richard.
Alors, vous allez nous parler d'un sondage Odoxa qui prouve que les Français, en fait, ont tendance à ne pas faire confiance au gouvernement, ce qui est assez surprenant.
Oui, c'est assez surprenant. Alors donc, chers auditeurs, 86% des parents ont peur. Ils ont peur qu'un jour, dans la crèche, à l'école, au périscolaire ou en colonie de vacances, leur enfant soit victime d'abus sexuels. Donc, c'était un chiffre révélé par le dernier sondage Odoxa paru hier pour Le Figaro et Backbone. Une enquête qui tombe au moment même où le gouvernement annonce des mesures qui sont largement insuffisantes. Nous y reviendrons. Donc, 78% des Français avaient déjà entendu parler des affaires d'abus sexuels dans le périscolaire parisien et 85% s'en disent choqués. Cependant, près de la moitié n'est pas vraiment surprise. Le drame apparaît presque comme un risque désormais intégré. Le jugement sur la mairie de Paris reste sévère. 55% des estime que sa réaction n'a pas été à la hauteur. Mais surtout, 88% des Français pensent que ces affaires ne sont pas un cas isolé à Paris, mais peuvent concerner toutes les villes de France. Enfin, la confiance dans les pouvoirs publics s'est effondrée. 57% des Français ne font pas confiance à l'État pour protéger efficacement les enfants en dehors du cadre familial. Face à cette vague d'inquiétude et de défiance qui vient renforcer ce que le scandale de l'ASE avait provoqué, qu'offre le gouvernement ? Eh bien, plus d'État. Oui, le ministre de la Justice a présenté mercredi un projet de loi sur la protection des enfants. Et c'est là que Michel Hamas, avocat au barreau de Marseille, porte une analyse particulièrement intéressante. Je cite « C'est une fois de plus un enfumage à coups de mots et un renforcement de cette administration dangereuse. Cela donne l'impression de l'action, mais ne change strictement rien. » Michel Hamas regrette le silence total du gouvernement sur les vrais problèmes de fond. Les 20 000 enfants livrés au réseau de pédophilie à partir des foyers, le manque cruel de contrôle au sein de l'ASE, l'absence d'avocat obligatoire pour chaque enfant, le manque de juges et de greffiers, ou encore l'absence d'un audit sérieux sur les 11 milliards d'euros consacrés à l'aide sociale à l'enfance. Il dénonce la volonté de faciliter l'adoption des enfants placés au lieu de privilégier leur retour dans leur famille élargie. Il critique aussi le renforcement des placements en urgence qui risque d'augmenter encore le nombre d'enfants concernés par l'ASE. Près de 400 000 enfants sont déjà suivis, dont 227 000 sont placés. Dans cette proposition de loi, il y a aussi l'idée d'une liste noire des personnes dangereuses. Cependant, l'avocat rappelle qu'elle existe déjà via le fichier FIJAS. Le problème est que les institutions ne la vérifient pas. Pour Michel Hamas, ce texte n'apporte aucune réforme de fond. Ce n'est, selon lui, que du vent, un simple effet d'annonce qui donne l'impression d'agir sans rien changer. Entre la peur massive des parents révélée par Odoxa et cette impression d'annonce gouvernementale sans véritable réforme de structure, le décalage est flagrant. Comme le résume Michel Hamas, quand un système ne protège plus ses enfants, c'est le système tout entier qu'il faut revoir. Et quand c'est l'État qui fait peur, à juste titre, ce n'est pas l'État qui peut nous rassurer avec son administration incapable et impunie et sa justice laxiste.
Eh bien, merci beaucoup Alice Meunier.
Ligne droite. Debout les Français.
Debout les Français, c'est avec Véronique Le Floch, éleveuse de bovins et productrice de lait dans le sud Finistère. Bonjour Véronique Le Floch.
Bonjour.
Alors, la première actualité paysanne, si j'ose dire, c'est cette canicule. Si j'ai bien compris, le fait qu'il fasse si chaud, avec 10 degrés parfois au-dessus des moyennes saisonnières, a une influence directe sur justement les vaches, mortalité animale accrue, moins de lait.
Eh bien, tout à fait. J'ai l'impression que vous avez un passé de paysan, mais je crois qu'on l'a tous dans nos gènes, dans nos familles. Ce qu'on vit aujourd'hui, physiquement, nous-mêmes, humains, est difficile à supporter. Mais pour nos animaux, ça l'est encore plus. Un animal, une vache, c'est plus de 500 kilos, jusqu'à une tonne pour les grosses vaches à viande et les taureaux. Donc, bien évidemment, avec cette chaleur, ils doivent consommer plus d'eau. Et un animal, ça consomme en temps normal 50 litres d'eau par jour jusqu'à 80. Donc là, forcément, ça recherche de l'ombre et ça recherche à avoir de l'air aussi. Et donc, avec trop de chaleur, ça consomme moins. Donc, on les sent, elles peuvent aussi avoir du mal à respirer. Donc, la production s'en ressent. Donc, on joue avec... avec le temps pour justement leur bien-être animal, pour leur offrir le plus d'ombre possible et parfois choisir le bâtiment pour les laisser en intérieur, là où ça va être le plus frais.
Alors, ces difficultés sont évidemment renforcées par toutes ces querelles sur l'accès à l'eau et la manière dont certains voudraient que l'élevage soit très consommateur d'eau avec des chiffres absolument délirants. Et d'autres expliquent, alors que les céréales aussi risquent de souffrir, je crois que c'est la période où les épices forment. Évidemment, en sécheresse, il y a une chance qu'il y ait moins de céréales. Les céréales en France contribuent grandement à l'alimentation animale. On est en ce moment donc avec une gestion de l'eau qui est plus politique que raisonnable, qui met en avant la manière dont les écologistes pensent cette gestion de l'eau plutôt que la manière dont les paysans aimeraient pouvoir utiliser cette ressource.
Alors, je pense que si on n'arrive pas à régler ce problème, c'est bien parce que politiquement, on ne veut pas régler ce problème. Tout le monde doit avoir conscience que l'eau, ce n'est pas que les agriculteurs. Les prélèvements d'eau en France sur les 33 milliards d'eau de mètres cubes qui sont prélevés, c'est d'abord pour refroidir nos réacteurs nucléaires. Ensuite, on a tout ce qui est eau potable, les collectivités, et ce volume-là, il est le double de ce que prélèvent les agriculteurs, 3 milliards d'eau de mètres cubes. Et à force de vouloir disparaître, voire disparaître les agriculteurs, eh bien, le volume d'eau qu'on importe aujourd'hui avec rien que les légumes et les fruits importés, c'est 3 milliards d'eau de mètres cubes aussi importés. Donc, à un moment, il va falloir régler ce problème. Alors, tous les ans, on en reparle. Si on prend Emmanuel Macron, et je ne remonterai pas trop loin parce que sinon je peux encore remonter, mais 2023, il annonçait son plan eau. Son plan eau pour aller 100 millions d'euros pour aider à faire des réserves, à entretenir. Mais il y avait aussi, et je tiens à le dire, je pense que je ne l'ai jamais dit nulle part, il incluait 30 millions d'euros pour aider les collectivités à acquérir le foncier agricole. Voilà une chose dont on n'a jamais parlé. Donc, avril 2023. Puis surviennent les manifestations de fin 2023, début 2024, et Gabriel Attal se dit « c'est un sujet important, je vous ai compris ». Et il finit par nous annoncer en mai 2024 « une centaine de réserves d'eau va être financée chaque année ». Alors pourquoi 100? Pourquoi pas 100 par département? Pourquoi pas autant que nécessaire? Et on continue, on change de gouvernement. Et Annie Genevard se déplace dans les Pyrénées-Orientales, département très, très touché et en permanence, pour y annoncer, ben, je vais vous faire un plan eau pour 3 départements. Avec le combat syndical, on passe à 18 départements. Nous avions demandé au moins tout le sud de la France, la moitié sud de la France. Alors, on passe à 18, on en oublie 3 parmi les autres. Et là, on nous annonce 50 millions d'euros d'aide. Sauf que c'est oublier que tout ça, ça rentre dans une obligation de chacun des États membres pour 2035 de mettre en état toutes les eaux secondaires. Donc, nos eaux de traitement, nos eaux usées. Et là, c'est un plan qui est évalué, je crois, à plus de 240 milliards d'euros pour toute l'Union européenne. Donc, annoncer des millions d'euros, faire croire que les agriculteurs nous privent d'eau, parce que vous verrez qu'il n'y aura plus d'agriculteurs, eh bien, il n'y aura toujours pas plus d'eau, parce que le changement climatique, il est là. Les agriculteurs, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils font des haies, ils plantent, on s'adapte. Hein. Mais pour autant, encore rappeler, les agriculteurs prélèvent de l'eau, mais ils la stockent aussi. Parce que justement, la France, c'est 27 millions d'hectares. Donc nous, quand elle tombe sur nos champs, elle fait pousser l'herbe, les vaches broutent cette herbe, on récolte des céréales, on récolte des fruits, des légumes. Mais quand l'eau tombe sur les villes, sur 12 millions d'hectares de villes, bientôt, il y a la moitié de la surface agricole qui est bétonnée. Alors, l'eau, elle est prélevée dans nos champs hein, ou dans les nappes. Quand elle tombe sur la ville, eh ben, elle ne peut pas s'évacuer. Donc, de toute manière, elle finit à la mer. Et donc, je pense que le problème, il faut aussi aller le chercher du côté des villes et puis arrêter de taper sur les agriculteurs parce que tout ce qu'on vit devient insupportable. En ce moment, c'est la chaleur, c'est des pertes, c'est le coût d'énergie, c'est tout qui s'accumule. Et nos jeunes qui veulent y aller, si en plus vous leur mettez un coup de bâton pour, entre guillemets, excusez-moi, mais pour les emmerder avec tout ça, ça ne va pas le faire, quoi.
Alors, ça va d'autant moins le faire qu'on va encore poser une question sur cette gestion de l'eau. Je regardais ce que disait Philippe Méda, donc, qui est président de la coordination rurale 66. Il est arboriculteur. Il nous dit « J'ai réduit mon irrigation telle que le dernier arrêté préfectoral le prévoyait. C'est simple, mes arbres, ils sont quasiment tous restés. Je vais devoir tout arracher et tout replanter. » L'administration impose des règles sous prétexte de gérer une ressource, mais les règles qu'elle impose sont juste délirantes.
Et surtout que quand on irrigue, c'est à peine 6% de la surface française, certains vont dire « Oui, mais ça augmente chaque année. » En fait, ça augmente. Ça a augmenté de 1,1%, je crois, en 10 ans. Sauf que comme la surface agricole diminue, ça représente davantage. Donc, bien évidemment, on est obligé d'avoir recours à l'irrigation. L'irrigation nous impose d'avoir des compteurs et de déclarer avant avril de mémoire les volumes d'eau qu'on va prélever de avril à fin octobre. Donc, ces volumes sont validés par les personnes compétentes et c'est sur ces volumes qu'on vient à un moment, alors qu'on les a validés, nous dire bah, « vous allez diminuer de 25%, voire plus ». Sauf que ces volumes, en plus, les agriculteurs payent. Donc, après, d'autres vont trouver à dire « Oui, mais l'irrigation ne sert pas à tout le monde. Ben, » bien sûr, on n'est pas tous sur des mêmes bassins versants. On n'est pas tous soumis aux mêmes natures de sol. On n'a pas tous besoin. Je prends les Deux-Sèvres. Alors, certains vont dire, là où il y avait Sainte-Soline, où il y avait toutes ces histoires de bassines, ça ne sert qu'à 5% des agriculteurs. Eh bien, vous allez un peu plus bas sur un autre bassin, eh bien, c'est 100 agriculteurs sur les 220 qui ont accès à l'eau. Donc, bien sûr qu'on ne va pas irriguer si on n'en a pas besoin. Quand vous êtes dans des cultures qui peuvent s'en passer, eh bien, on n'ira pas irriguer. Moi, mes prairies vont bientôt être toutes grillées et très vite si ça continue. Eh bien, je n'irai pas pour autant mettre un système d'irrigation. Par contre, une réserve d'eau, oui, serait utile.
Alors, c'est ça, c'est le problème de l'eau, mais en fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a bien sûr le conflit israélo-américano-iranien fait en sorte que le détroit d'Ormuz est bloqué, donc les engrais augmentent. Il y a d'autres conséquences géopolitiques des décisions européennes, par exemple, le prix des œufs, c'est-à-dire les importations d'œufs sont en hausse de 21% avec des œufs à très bas prix qui viennent en partie d'Ukraine, et c'est une concurrence totale. Totalement déloyal pour les agriculteurs français qui se retrouvent, alors qu'on leur a demandé de monter en gamme avec des élevages plus chers pour produire des œufs dans le respect du bien-être animal, ils sont confrontés à une concurrence en fait mise en place par la France et l'Union européenne à laquelle ils ne peuvent rien.
Alors là, les députés ont encore des bonnes idées. Enfin, ils ne font que les recycler. D'ailleurs, vous avez tous entendu parler ou pas de la loi d'urgence qui devrait bientôt accoucher, hein, et bien plus vite que d'ailleurs la loi d'orientation agricole qui avait mis 2 ans et demi pour sortir en février 2025. Eh bien, dans cette loi, ils reprennent un article qu'ils avaient déjà mis dans la loi Egalim, laquelle prévoyait que l'on couvrirait les coûts de production de nos agriculteurs, de nos produits. Eh bien, on prend le même article pour dire que, en France, pour le respect de l'environnement, pour le respect de la santé de tous, de nos animaux et des humains, eh bien, on n'importera plus en France des produits ayant fait usage de produits de substances interdites en France. Très bien. La différence, c'est qu'on a rajouté pour la santé humaine, animale.
Ah, je crois qu'on a perdu Véronique Le Floch. Alors, qui était en train de nous parler de la manière dont les députés français ont effectivement pondu une nouvelle loi pour faire en sorte de limiter les importations. En même temps, donc, qu'on nous impose plusieurs traités de libre-échange, on se retrouve avec des lois qui, elles, tentent vaguement de pallier la misère. Évidemment, elles y arrivent mal, ne serait-ce que parce que ces lois sont mal faites. On s'est rendu compte que la loi Egalim, par exemple, qui était censée permettre d'améliorer le revenu des agriculteurs, en fait, ne fonctionne pas du tout. Lors d'une commission d'enquête sénatoriale, il y a quelques jours, dont le rapport a été rendu il y a quelques jours, un des sénateurs faisait remarquer que, par exemple, le directeur des centrales d'achat du groupement Leclerc avait expliqué qu'il contournait facilement la loi Egalim en allant acheter à l'étranger les denrées qu'ils n'avaient pas besoin d'acheter en France, et donc qu'ils respectaient le cadre européen en passant ailleurs que par les systèmes qui sont, eux, à la mesure des députés français. Et ça, la France n'y peut rien. Donc ces lois Egalim ne servent à rien et ne protègent absolument pas le revenu des agriculteurs. Et d'une manière générale, les autres lois elles-mêmes sont tout aussi inefficaces. Arnaud, est-ce que par hasard nous avons récupéré Véronique Le Floch? Bon, alors malheureusement non, eh bien j'en suis navré. Est-ce que par hasard notre ami Nicolas Vidal est en train d'attendre dans le Zoom? Non plus. Bon. Alors, voilà, chers auditeurs, là, je suis un peu en peine. J'ai perdu ma première invitée. Mon deuxième invité n'est pas encore arrivé. Est-ce que par hasard, le camarade Alexandre de Galzin pourrait venir voler à mon secours pour me permettre de parler avec lui, évidemment, de la situation des agriculteurs? On avait évoqué avec Véronique Le Floch la gestion de l'eau. Dans tous les chiffres qu'a donné Véronique Le Floch étaient tout à fait intéressants. D'une part, évidemment, la longue succession des mesures idiotes ou inutiles proposées par Annie Genevard ou Gabriel Attal, qui d'ailleurs n'ont jamais été suivies d'effets réels, et une fois de plus avec des chiffres, on ne comprend pas pourquoi 3 départements plutôt que 18, on ne comprend pas pourquoi 100 réserves plutôt que 1000, enfin bref, on ne comprend pas. On a aussi parlé bien sûr de la concurrence organisée par l'Europe, avec notamment les œufs qui en sont totalement emblématiques. Dire les agriculteurs français réussissent à couvrir en fait les les besoins de la grande distribution, mais pas du tout les besoins de l'industrie, ni ceux de l'hôtellerie-restauration, donc qui importe massivement les œufs ukrainiens. Et on a ainsi le sentiment, en fait, d'une profession de plus en plus réduite sur le territoire français et qui est systématiquement sacrifiée, toujours prise entre deux feux, le feu de la réglementation française et européenne et le feu, en fait, de la nature, voilà, qui, elle, impose évidemment de pouvoir produire, et d'ailleurs qui nous imposera bientôt de devoir manger, vraisemblablement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Alexandre de Galzin.
Bah oui, parce qu'il nous reste 22 secondes de cet entretien, donc effectivement, je pense que c'est important d'apporter de nombreux éclairages, effectivement, peut-être une analyse en 18 secondes de la situation des agriculteurs en France, c'est ça ?
Mais voilà, je ne savais pas, j'espérais que vous alliez venir. Merci en tout cas de m'avoir accompagné dans cet horriblement long tunnel que nous avons infligé aux éditeurs de Radio Courtoisie, et ayez la bonté d'appeler Véronique Le Floch pour lui présenter nos excuses les plus plates, en tout cas les miennes.
Très bien.
Mais merci beaucoup. Et
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Seize.
Avec Richard de Seize et avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Voilà, évidemment, j'ai oublié de préciser qu'il était 7h24 et que Alexis Poulain nous rejoindra, mais parce que j'étais légèrement perturbé par le fait d'avoir parlé 10 minutes à la place des invités. Bonjour Nicolas Vidal.
Bonjour Richard de Seize, comment allez-vous ?
À merveille, et vous-même ?
Je suis en pleine forme, mieux que l'état du pays, mieux que l'état du pays.
Excellente transition, vous venez de publier un petit ouvrage tout à fait revigorant, Un peuple en trop, donc aux éditions Putsch. Dire vous régulièrement vous balancez comme ça des pamphlets tout à fait aimables, Lettres aux autruches et aux tubes digestifs qu'on avait lu avec bonheur en 2023. Ensuite La tempête qui vient, Nous les sans dents, Tu es né dans la tempête. Dans Un peuple en trop, vous nous dites justement cette tempête que vous annonciez, ça y est, on est dedans.
Ben oui, on est clairement dedans. Alors, elle est à bas bruit. Vous savez, Richard, c'est toujours pareil. Souvent, les gens je vais beaucoup en conférence un peu partout en France, et les gens me disent, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Mais la réalité, c'est que la cartographie de la colère, en fait, elle devient de plus en plus rougeoyante. Et vous avez notamment le prix des carburants, je crois que ça n'aura échappé à personne, que là, véritablement, la partie de la population qui ne s'est pas rendu compte que la politique œuvrait mécaniquement sur leur pouvoir d'achat et sur la dignité de l'existence de tout un chacun, finalement, est en train de les concasser. Voilà. Et cette tempête, quand vous avez une crise des carburants comme elle est aujourd'hui, les gens font très rapidement le lien entre les prises de décision politique et la vie de tous les jours. Puisque, on ne va pas revenir, je sais que vous en parlez beaucoup sur l'antenne, avec les prix des carburants, c'est une volonté politique de ne pas supprimer ou baisser les taxes. Donc, cette tempête qui vient, elle est forcément là. Alors, elle est à bas bruit. Vous n'avez pas des grandes manifestations encore, mais je crois qu'on a tous en tête le mouvement des Gilets jaunes, en novembre 2018. Il faut dire que la situation économique de novembre 2018 était beaucoup plus enviable que celle-ci aujourd'hui. Donc c'est une tempête qui se fait sur le long cours, sur le long terme, et manifestement, je suis très inquiet, on va sûrement en parler, c'est que pour moi aujourd'hui, Richard, elle n'a aucune identification ou aucune issue politique et démocratique. Et c'est un vrai risque pour le pays. Et c'est en ce sens que moi je suis très inquiet, puisqu'on se rend compte que vous avez une partie de la population aujourd'hui qui n'a plus espoir à la classe politique et aux décisions politiques qui pourraient être prises déjà maintenant, et puis celles qui pourraient être prises lors de la présidentielle en 2027. Voilà. Et c'est un vrai péril, parce que ça veut dire que le contrat social qui nous lie tous, quelles que soient nos idées politiques, nos capacités ou notre cadre de vie, en fait, est mis à mal, ce contrat social. Et dans ce cas-là, l'arithmétique démocratique devient de plus en plus complexe à résoudre, Richard de Seize.
Alors effectivement, elle est d'autant plus complexe à résoudre que d'un côté, et vous en dressez la liste qui est effectivement effrayante, effondrement économique, révolte des paysans, pêcheurs hackés, routiers étranglés, boulangers et artisans asphyxiés par le prix de l'énergie, entrepreneurs saignés à blanc par une fiscalité prédatrice et confiscatoire. La France a été livrée pieds et poings liés aux aléas et à la violence d'une mondialisation qu'elle ne contrôle plus. Donc ça c'est le constat, effectivement. Et quand on se dit, mais nom d'un chien, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là ? Eh bien, on en est arrivé là parce que, vous nous le dites, Les politiciens ont décidé, en fait, que la cause du peuple n'était pas la leur et qu'au contraire, il y avait une nécessité, en fait, et c'est ce que vous appelez le pillage. Ce résultat, c'est le produit réel, concret, quotidien de 40 ans de pillage organisé par une casse de tous les bords, qui a vendu ce pays morceau par morceau en continuant à se servir grassement aux banquiers de la République. Ça, voilà une belle rhétorique populiste, diraient vos adversaires, mais c'est vrai que dans les faits, entre le Sénat qui explique qu'il va arrêter ses travaux le 14 juillet pour pouvoir faire la tournée des popotes et qui vote continuellement, le Sénat comme l'Assemblée nationale, l'augmentation de ce qu'on peut appeler la rémunération en fait, des élus, pendant que le reste des Français se serre la ceinture, on est absolument stupéfait de la manière dont la classe politique considère qu'elle est là uniquement pour se servir.
Oui, il y a eu un pillage à deux étages. Il y a eu le pillage, vous l'avez dit, Richard, le pillage économique. Et je rappelle quelques données, ce massacre économique que nous avons vécu et que nous continuons de subir, il faut le dire. Et puis le pillage démocratique depuis 2005, on le sait tous. C'était la période bénie, à un moment donné, du traité constitutionnel européen. Et les Français ont voté en alentour 53-54%. Et en 2008, toute la classe politique, et c'est là que c'est terrible. C'est-à-dire qu'en 2008, quand le congrès de Versailles, que Nicolas Sarkozy convoque le congrès de Versailles, les sénateurs et les députés se réunissent gentiment au congrès de Versailles et tout le monde, ou pratiquement tout le monde, vote main dans la main, effectivement, ce nouveau traité de Lisbonne, appelé le traité de Lisbonne, qui a fini de nous enchaîner, notamment aux diktats européens. Et à ce moment-là, vous êtes dépossédés. Vous êtes dépossédé de votre politique économique, vous êtes dépossédé notamment, bien sûr, de notre souveraineté, parce que le maître mot là-dedans, c'est la souveraineté du peuple, c'est-à-dire c'est à nous de décider ce qui est bon pour le pays. Et vous avez effectivement une classe politique de tous les bords, et ça c'est terrible, qui a décidé finalement de s'asseoir au banquet de la République, on pourrait citer plein d'exemples, j'en cite pas mal dans le livre, et qui ont décidé de rester au pouvoir, et donc pour rester au pouvoir, ils sont prêts à toutes les compromissions, que ça soit politique, électorale et autres, pour essayer à un moment donné de rester pas trop loin de la gamelle, parce que la gamelle est bonne, et surtout que la gamelle est abondée avec nos impôts. C'est ça qui est formidable. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que dans ce régime dans lequel nous vivons, ce régime parlementaire, nous devrions avoir des députés, quelles que soient une nouvelle fois nos convictions politiques, des députés qui défendent à un moment donné nos intérêts et qui défendent l'intérêt des Français. Et là, manifestement, on doit bien dire que depuis plusieurs années maintenant, et depuis 2005, c'est encore plus vrai, il y a vraiment une classe politique et les députés, je cite les salaires, les indemnités des députés, soyons précis, avantages en tout genre, Sénat, députés européens, donc on voit que c'est un monde qui n'existe que pour ces gens-là, et dont les Français sont les principales victimes par des décisions absolument déjà d'une erratique, et qui vont contre l'intérêt du peuple. Et vous savez, moi qui aime un peu l'histoire, je me dis que quand on lit rapidement des textes, qu'on revient un peu dans le passé, mon cher Richard, et qu'on se passionne très rapidement pour ce qui s'est passé, eh bien manifestement, il y avait un très bon livre d'ailleurs de Patrice Guénifé. Vous voyez, je fais même la promo des livres que je n'ai pas écrits. Ça s'appelle Révolution française au pluriel. Et c'était chez Plomperin. Et Patrice Guénifé, le collectif d'historiens qu'il a mobilisé autour de lui, vous montre en 10 pages chaque fois qu'il y a eu des jacqueries, des révoltes. Et en fait, quand vous vous plongez dans ce genre de livre, vous vous rendez compte qu'on n'est pas si loin que ça. Et que cette histoire est en train de se refaire en permanence. Et ce livre-là, Le peuple en trop, c'est-à-dire que le peuple, eh ben, il ne compte plus. Il est devenu une espèce d'émotion populaire qu'il faut canaliser. Alors, on les canalise, par contre, les agriculteurs. Par contre, je pense que demain soir, on verra qu'ils sont moins canalisés. Parce que c'est ça aussi la rhétorique. Il y a aussi un deux poids, deux mesures absolument effrayant, dans cette volonté de l'État de frapper fort quand il veut frapper fort, mais laisser, bien sûr, libre cours, à d'autres, exactions qui sont faites toutes dans le pays en permanence. Et ça aussi, ça prend, racine dans ce peuple en trop, où les Français sont écrasés, sont concassés par un régime fiscal confiscatoire et ils ne sont plus en sécurité. La sécurité dont vous parlez sur l'antenne, l'insécurité, mais pas que l'insécurité de la rue, pas que l'insécurité des quartiers chauds, pas que l'insécurité de nos boulevards ou de nos campagnes, parce que malheureusement c'est le cas, l'insécurité bancaire, l'insécurité économique, l'insécurité alimentaire. Et on voit bien qu'à un moment donné, ce pays est laissé à volo. Mais par contre, nous continuons bien sûr à abonder le tonneau des Dalaïdes que nous devons remplir et qui ne se remplira jamais, puisqu'on rappelle que c'est 3700 milliards d'euros de dette à peu près, ou 3600 si vous préférez, et hors bilan c'est 7500 milliards d'euros de dette, et bien sûr les Français sont toujours appelés, mon cher Richard, à venir cracher le bol qui est de plus en plus grosse avec un État qui est en train de s'effondrer, et qu'on laisse s'effondrer, parce que la problématique c'est ça, et bien sûr le peuple n'a plus son mot à dire, d'où ce nouvel essai, le peuple en trop.
Vous parliez d'insécurité. Il y a presque une autre insécurité qu'il faudrait ajouter à toutes celles que vous avez justement listées. C'est presque une insécurité légale. C'est-à-dire, maintenant, le peuple a peur de son État. Parce que cet État est capable, d'une part, de le rançonner, de le spolier. Vraiment, la fiscalité est devenue confiscatoire. Elle l'asphyxie par des lois qui rendent l'initiative impossible. Et en plus, dès que le peuple fait mine de se révolter, l'État, qui est faible vis-à-vis du trafic de drogue, qui est faible vis-à-vis de cette insécurité que génère ce trafic de drogue et d'autres facteurs, l'État se montre d'une brutalité, d'une force, d'une méchanceté. Voilà, il impose les centres d'immigration dans des campagnes qui ne peuvent pas traiter ce que ces centres vont produire comme insécurité. Il est capable de gazer les paysans tout en laissant les quartiers perdus de la République prospérer. Voilà, le peuple maintenant est tenu en respect par l'État.
On verra bien, vous avez raison de le dire, on verra bien si demain soir à Paris il y aura les centaures. Nous verrons si Laurent Nunez va
demain
décoller.
Demain soir, match de foot,
oui,
etc.
La finale de la Coupe, de la Ligue des Champions, pardon, Paris Saint-Germain notamment. Et nous verrons bien si Laurent Nunez, demain soir, ministre de l'Intérieur dans son État, qui a été préfet de police, il faut le dire encore, on verra si Laurent Nunez aura le courage de sortir les centaures, comme ça a été le cas. Vous savez que j'ai beaucoup suivi les Gilets jaunes, beaucoup suivi les crises agricoles respectives, beaucoup suivi notamment les mobilisations populaires contre la réforme des retraites. Les centaures ont été de sortie à peu près tout le temps. Maintenant, c'est pratiquement automatique. Hein. Vous avez une manifestation populaire, vous avez des centaures. Par contre, on verra si demain soir, Laurent Nunez, qui est toujours prompt à nous dire qu'il va lutter contre le narcotrafic, on verra bien si ces gens... Et vous voyez, à un moment donné, ça, je crois qu'ils n'ont là-haut, notamment sur ce sujet-là, mais je crois qu'ils n'ont pas conscience en fait des images qu'il y a eu contre les agriculteurs, parce que ça fait partie du livre aussi. Quand vous avez, à un moment donné, l'indignité de sortir des centaures, des CRS ou des gendarmes mobiles face à des agriculteurs qui sont violemment réprimés, puisque qu'il représente encore cet enracinement de cette France rurale, cette France qui sait produire, cette France du terroir et cette France séculaire, et bien manifestement, quand vous aboyez les forces de l'ordre assez violemment en gazant notamment, et bien vous voyez bien qu'à un moment donné, ces gens sont très très violents envers les Français finalement, qui représentent encore l'incarnation du pays. Parce que quand vous en prenez aux agriculteurs, vous allez saper les dernières fondations solidement ancrées dans cette terre de France, et bien entendu après, et bien vous laissez le reste faire à sa guise ce qui leur paraît bon de faire dans toute illégalité et sans aucun contrôle. Et c'est en ce sens que le peuple en trop, à un moment donné, et bien va basculer. Et c'est là, je le répète, hein, c'est vraiment là, et puis je le dis dans le livre aussi, parce que c'est toujours intéressant, il faut dire, il fait 50 pages, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez court, mais je voulais véritablement lister ce qui me paraissait important de lister dans le pillage de la France, dans ce pillage, parce qu'il y a eu ce pillage également, on en parle à PPE3, on peut en discuter, hein, le marché européen de l'énergie, en fait, toutes ces choses-là, qui sont prises notamment contre les intérêts du peuple français et dont nous payons, nous sommes les contribuables honnêtes et solvables, de moins en moins solvables d'ailleurs, et qui sont obligés, bien entendu, de payer des impôts face à cet effondrement pour lequel nous n'avons plus rien en retour. Donc là, vous voyez bien, Richard, qu'il n'y a... Le contrat social s'effondre et la communication ne parviendra pas, bien entendu, à remplir cette espèce de trou béant qui est devenu une abysse sur cette façon qu'un peuple est en train d'être de plus en plus méfiant, voire pour une partie haineux contre la classe politique. Et moi, je suis très inquiet, et ces livres-là, alors je suis pas lanceur d'alerte concrètement, mais ça me semble important à un moment donné de remettre dans un livre de 50 pages toute cette structure et comment tout ça s'est mis en place contre les intérêts du peuple.
Effectivement, donc redisons-le, Un peuple en trop aux éditions Putsch Media, voilà, ça ne coûte pratiquement rien, ça fait 50 pages, c'est un concentré, on a l'impression de vous entendre en fait dans vos émissions quand on vous lit, vous reprenez toutes les rhétoriques de l'État et vous les démontez évidemment. Il y a plusieurs passages qui sont évidemment à la fois plaisants parce qu'on vous retrouve et aussi terrifiants parce qu'on entend entend l'État profond nous parler. Par exemple, quand vous dénoncez la politique énergétique de la France, la manière dont la France a décidé de rester à l'intérieur du système énergétique européen, alors qu'elle aurait très bien pu, comme le Portugal et comme l'Espagne, s'en abstraire au moins momentanément, alors surtout qu'elle pourrait faire valoir l'excellence de son parc nucléaire et donc arrêter de vendre une électricité hors de prix aux Français, surtout au moment où Emmanuel Macron explique qu'il faut massifier l'électrification, qu'il faut faire en sorte que la consommation électrique devienne la norme absolue pour tout, la voiture, le chauffage et tout le reste. Autrement dit, au moment où ils font exploser les coûts de l'électricité, ils veulent engager les Français à en consommer toujours plus. Et vous dites, lorsque des voix s'élèvent pour dénoncer ce hold-up organisé, la caste oppose un tir de barrage avec l'accusation d'ingérence russe, le spectre du complotisme, le brûlot d'une extrême droite soi-disant manipulée par Moscou pour faire douter les Français. Défendre notre souveraineté énergétique est devenu en France un délit d'opinion. Vous voilà devenu agent de Poutine, c'est leur seule réponse. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait surprenant, la manière dont on disqualifie en permanence le peuple dans une république qui est prétendument une démocratie.
Bah, c'est tout le propre des régimes totalitaires, hein. Vous savez, le propre des régimes totalitaires dans lequel l'État ou le pouvoir en place, parce que c'est même plus un État, ça c'est un pouvoir en place, estime que toutes ces voix qui s'opposent à la doxa sur tous ces sujets est bien entendu un élément manipulé, un proxy, notamment du Kremlin, de Moscou, ou complotiste sur d'autres sujets, parce que c'est la disqualification, vous l'avez dit, de la capacité de réfléchir. Voilà, il y a un profond mépris de classe, un mépris de classe. Donc d'une part, il y a effectivement cette non-réponse, c'est-à-dire que ces gens sont incapables de convaincre la majorité des Français du bienfait de ces politiques suicidaires, hein, et mortifères, parce qu'ils n'ont pas la rhétorique, parce qu'ils ils réagissent aussi sur une idéologie absolument dingue, c'est l'écologie, c'est le wokisme, c'est tous ces sujets-là, dans lesquels ils sont complètement idéologisés. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a très peu de débat, et quand il y a du débat, ils ont une espèce de boîte à outils qui se vide rapidement quand vous leur opposez des arguments qui sont assez concrets. Et deuxième chose, effectivement, on excommunie en estimant que les Français qui se permettent de réfléchir, en fait, hein, de réfléchir, eh ben, ce sont de dangereux complotistes ou des agents du Kremlin. C'est-à-dire qu'en même temps, on nie l'esprit même de la démocratie, de la grande dispute, Richard. C'est-à-dire que la grande dispute ou la grande conversation, c'est ce qu'a fait la France, notamment, pas que, mais ce qu'a fait la France dans la façon de débattre intellectuellement et culturellement et de faire avancer des projets et surtout de faire avancer ce pays, mais pas vers le progressisme ambiant que nous connaissons. Et donc, sur ces deux thèmes-là, ils ne veulent absolument rien entendre. Et on entend des choses qui sont absolument, qui confinent à la bêtise, permettez-moi de le dire. Parce que ces gens-là ne sont vraiment bouffis d'idéologie. Mais ils l'imposent parce qu'ils ont quoi? Ils ont les manettes. Ils ont les manettes de l'État. Sur la PPE3, vous avez des gens qui sont passés en force partout. Passer en force partout alors qu'on est censé faire des économies, en fait, faire des économies pour des gens qui ont vidé la caisse, c'est quand même assez savoureux. Eh ben non, on va continuer à passer en force parce que les dictateurs européens vous expliquent qu'il va falloir aller vers le Green Deal, alors le pacte vert, pardon, sur Radio Courtoisie, sur le pacte vert, et bien entendu, ils foncent tête baissée dedans, et comme ils sentent que ça accroche, eh ben, ils passent en force. Regardez notamment, on a quand même un exemple éclatant, les ZFE. Des ZFE. Alors les parlementaires se sont mobilisés parce qu'ils ont vu que la colère populaire était quand même bien là, donc les parlementaires qui sont moqués, hein. Les parlementaires, très sincèrement, la plupart s'en moquaient, ne savaient même pas ce que c'était les ZFE avant de le voter, ils ont vu que ça montait sur les réseaux sociaux, et là on est typiquement au cœur du livre. Donc, ils votent, c'est bloqué, très bien, que font les 9 sages? Alors je sais pas si on les appelait sages ou pas sages, en tout cas c'est les 9 sages du Conseil constitutionnel, eh ben se sont assis, bien sûr, sur la volonté populaire via le débat parlementaire. Donc on est vraiment sur un pays qui est en train de s'effondrer par l'emblot, et moi je suis effrayé, je sais pas si vous avez la même analyse que moi, c'est-à-dire qu'on le voit s'effondrer jour après jour ce pays en fait. D'habitude c'est le temps long, c'est-à-dire qu'on voit au fil des mois des choses qui tombent, mais là on le voit s'effondrer tous les jours, sous nos yeux, dans une espèce d'indifférence générale de la classe politique, et on vous explique, notamment avec l'émérite Roland Lescure, hein, le ministre des Comptes dégradés, que tout va bien, que l'économie française va bien, qu'on n'a jamais été aussi bon, que finalement, face à la crise, on prend le vent de face sur un gros paquebot au milieu de l'océan, mais que la France tient son rôle, que la France tient son rang, et que la France tiendra surtout ses objectifs. Ces gens se moquent du monde, véritablement, mais comme ils sont dans cette bulle de communication où on leur laisse dire un peu ce qu'ils veulent et que ça mériterait avoir aussi des gens qui, vous voyez, qui puissent les contredire sur les faits, eh ben, on se retrouve avec une caste véritable. Parce que c'est la caste, hein, c'est vraiment une caste au sens littéral du terme, qui continue à expliquer aux Français que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, alors que nous, les Français, voient bien que le pays s'effondre, même ceux qui sont très éloignés de la politique, eh ben, se rendent bien compte, on en parlait tout à l'heure, à la pompe à essence, qu'à un moment donné, la décision politique vraiment écrase littéralement l'existence de tout un chacun. Ce matin, quand les gens vont faire le plein, du moins à la pompe, près de chez eux, eh ben, ils voient bien que la décision politique, les décisions politiques, influent immédiatement sur leur vie, et dans ce cas-là, c'est la rupture totale avec le peuple français. Voilà.
Une rupture totale, mais effectivement, ce petit livre souligne en permanence à quel point il y a un décalage inexplicable. Donc, je reçois avec plaisir Nicolas Vidal pour son petit livre, plutôt son pamphlet, plutôt cette bombe, en fait, Un peuple en trop, voilà, qui est un cri lancé à la face de ceux qui nous gouvernent. Alexis Poulain nous rejoindra dans quelques minutes et il nous parlera lui aussi de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui prétendent nous gouverner, puisque nous aborderons les futures élections présidentielles. Je voudrais donner un exemple des rapprochements très significatifs que vous faites. Le gaspillage fiscal ne s'arrête d'ailleurs pas aux frontières françaises. Depuis le début du conflit ukrainien, en février 2022, la France a engagé plus de 60 milliards d'euros d'aide directe et indirecte à l'Ukraine, aide militaire bilatérale, contribution à la Facilité européenne pour la paix, soutien humanitaire, garantie à l'export, accueil des réfugiés. On pourrait aussi y ajouter d'ailleurs la manière dont on soutient l'agriculture ukrainienne, c'est-à-dire autrement dit dont on ruine l'agriculture française, pour le dire autrement, des sommes colossales engagées sans débat parlementaire sérieux. Et pendant ce temps-là, le boulanger qui ne peut plus payer sa facture d'électricité attend son boost carburant. Le routier qui ne peut plus sortir son camion remplit un formulaire sur un site qu'il envoie dans un labyrinthe administratif. C'est ça aussi, en fait, la manière dont le peuple est méprisé. C'est-à-dire, d'un côté, Emmanuel Macron et ses ministres annoncent 1 milliard pour l'aide au développement, 10 milliards pour ceci, 5 milliards pour ça. Les milliards pleuvent et à côté de ça, on explique qu'on va filer à une portion cul de ceux qui en ont besoin, un peu de carburant, mais pendant un mois seulement.
Ben oui, c'est toute la magie de ces gens. Vous l'avez dit, hein, la guerre en Ukraine, effectivement, c'est entre 60 et 65 milliards d'aides directes et indirectes. Alors c'est pas des aides, vous l'avez dit, c'est pas des aides directes qui ont été versées, mais ça représente ça. Quand vous envoyez un canon César en Ukraine, ça coûte un peu d'argent, parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on c'est nous qui avons financé les canons César et toute une série de choses également. Et donc on envoie de l'argent. On va dans ce forum en Afrique il y a quelques semaines pour annoncer du financement public et privé. C'est formidable. En plus Macron, il est content de lui. D'ailleurs, il est bien le seul à nous expliquer que c'est formidable et que tatati et tatata, puis il sort des choses qui sont absolument, mais qui franchement il faut le réécouter plusieurs fois pour commencer à comprendre ce qu'il raconte. Et puis bien entendu de l'autre côté, on n'aide absolument pas. La guerre en Ukraine, c'est l'Ukraine, vous l'avez dit. D'ailleurs les aides, je le rappelle dans mon livre, parce que ça aussi dans les grands médias, hormis sur Ligne Droite et quelques médias, les affaires de corruption s'enchaînent en Ukraine. Combien de ministres Zelensky a viré depuis le début? C'était tellement énorme qu'il n'a pas pu les garder auprès de lui, c'est quand même formidable. Et donc ces millions, il y a des détournements. C'est de l'argent à fond perdu, argent européen, mais qui est à valeur pour la France au prorata de votre engagement, notamment au sein de l'Union européenne, et votre poids économique au sein de l'Union européenne. Eh bien entendu, ça ne pose problème à personne. Et ces gens, vous l'avez vu, Jean-Noël Barrot, d'ailleurs, le ministre des Affaires qui lui sont très étrangères, nous explique en permanence que c'est pour défendre les valeurs de la démocratie, parce que nous serons, voilà, les valeurs de démocratie. J'ai envie de vous dire que c'est pas cette idée que je m'en fais, mais surtout, il faut se tourner vers la France avec des aides qui sont ciblées, des boosts carburants. Et je peux vous assurer que nos chers technocrates de Bercy, quand ils vous font des aides, et c'est à peu près tout le temps le même, je le dis dans le livre, vous font tout un formulaire, un labyrinthe administratif, de manière à ce que la plupart ne puissent jamais toucher ces aides. Donc la réalité, c'est qu'on voit bien qu'on étrangle les Français là-dessus et qu'on continue à donner de l'argent et qu'on pile les pièces. Après, la question qui se passe et qu'on se pose, en tant qu'auditeur, c'est pourquoi ils font ça. Moi, je continue de penser, c'est pour ça. On revient toujours, malheureusement, on revient toujours à l'Union Européenne. Je suis désolé d'en faire un espèce de... Mais on y revient toujours parce que moi, je continue.
Ça nous choque beaucoup sur Radio Courtoisie.
Oui, je sais beaucoup. C'est pour ça que j'y vais à pas de velours, mon cher Richard. Mais je pense véritablement qu'il y a une volonté aussi de vider les caisses de la France, on l'a dit, notamment pour nous enchaîner au marché, voyez-vous, et pour nous enchaîner au marché et nous enchaîner à Bruxelles, en nous disant, mais vous voyez, chers amis, on est ruinés, les agences de notation nous dégradent, donc nous ne pouvons pas faire sans l'Union européenne, le FMI, la BCE, d'ailleurs, le FMI, la menace plane du FMI, hein, c'est le Fonds monétaire international, rappelez-vous ce qu'ils ont fait à la Grèce et à d'autres pays, c'est-à-dire qu'on se rend, on a quand même l'impression que les caisses sont vidées délibérément pour, à un moment donné, nous enchaîner et que la souveraineté populaire, ce peuple en trop, ne puisse plus, à un moment donné, reprendre son destin en main. Parce qu'on leur dira, on lui dira à ce peuple, ah ben vous comprenez, les copains, il n'y a plus d'argent, on est ruiné, on est en banqueroute, on est en faillite. Alors, les économistes, certains me diront, on ne peut pas dire ça, peu importe, mais on est ruiné. Et puis, il va falloir, à un moment donné, quémander l'aide du Fonds monétaire international. Il va falloir demander l'aide de Bruxelles. Donc, nous ne pourrons plus jamais sortir des marchés. Et la vente du pays à la découpe se poursuivra et se terminera, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus rien à vendre. On est à l'os, donc vous ne pouvez pas trop couper dans l'os, et on se retrouve là, et ces aides à l'Ukraine, c'est un bon exemple d'une technocratie, d'une caste politique, qui notamment continue. Et regardez les dernières images, je suis désolé, ces dernières semaines, vous avez vu Bruno Retailleau, vous avez vu Édouard Philippe descendre du train bleu, ils sont allés à Kiev. Vous voyez qu'à un moment donné, comment voulez-vous qu'on se sorte de cette histoire? C'est-à-dire que chacun va dans son petit pèlerinage pour 2027 se faire adouber par Coco Zozo Zelensky pour expliquer à la communauté internationale que moi aussi, en tant que futur candidat, j'irai notamment défendre des valeurs de démocratie, de liberté en Ukraine. Voilà. Et c'est dans ce sens que le peuple est en trop, c'est-à-dire que ces gens jouent un théâtre, et l'Union européenne en est la principale scène, et on ne peut absolument, on n'a plus de manette, le peuple en a de moins en moins, et depuis, je le répète, depuis 2008, le fameux traité de Lisbonne, on a été littéralement bâillonnés et on a été littéralement les pieds et les mains liés notamment à toutes les décisions souveraines qu'on peut prendre sur le sol, les questions économiques, les questions d'insécurité, les questions d'immigration. Tant que ce sujet ne sera pas porté sur la table, et vous voyez bien que tous les responsables politiques refusent de porter, que ce soit d'ailleurs du côté de la LFI, rappelez-vous de Manon Aubry qui est allée faire une petite bisette à Ursula von der Leyen, alors qu'elle nous disait quelques jours avant qu'à un moment donné, il faudrait que cette dame passe devant les tribunaux, et puis après du côté du RN, c'est pareil. Donc on a vraiment cette problématique où personne ne veut plus sortir de l'Union européenne. Et c'est en ce sens que le constat est flagrant et que la rupture est totale. Et moi, je suis très inquiet. Et c'est pour ça que le peuple en trop, une nouvelle fois, j'explique tout ça, mais je suis aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais aussi beaucoup d'espoir, parce que je pense quand même que la France que nous aimons, cher Richard, saura à un moment donné se relever. Mais le problème, ça prend du temps et on se relèvera, mais surtout dans quel état on se relèvera. Et ça, franchement, c'est une question qu'on se pose tous.
Eh bien, c'est une question qu'on va pouvoir poser à Alexis Poulain qui nous rejoint.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Eh bien, bonjour Alexis Poulain et bienvenue dans Ligne droite où vous allez nous aussi vous parler du peuple, mais sous l'aspect évidemment de ces candidats qui viennent tous se presser au chevet de la France.
Oui, ça y est, on a compris qu'on va manger de la campagne présidentielle quasiment matin, midi et soir. C'est parti et c'est tragique. On peut dire que c'est un départ extrêmement poussif pour des candidats. Alors, il y a quand même quelqu'un qui met la barre très haut, c'est Raphaël Glucksmann, hein, qui est candidat, mais qui se donne 3 mois pour dire s'il est candidat. Parce qu'on ne sait jamais, hein, il faut savoir faire monter les enchères, surtout dans le bloc social-démocrate, où on ne sait pas si à la fin c'est François Hollande qui va gagner. Et donc, il faut vraiment essayer de se montrer sous son meilleur jour. C'est assez calamiteux. Gabriel Attal, de son côté, alors lui, il vole les anciens bots de Macron sur les réseaux sociaux pour les faire devenir les bots avec Attal. Et puis, il essaye de remplir des salles climatisées avec un écran géant pour diffuser la finale le 30 mai avec un call center pour expliquer aux gens qu'il faut venir. C'est demain le grand meeting de campagne de Gabriel Attal qui risque d'être une catastrophe. Quand on voit d'ailleurs ces différentes prises de parole, on sent que tout est faux. Et d'ailleurs, on reviendra peut-être là-dessus, mais le fait d'avoir lancé sa campagne dans l'Aveyron, dans un petit village, façon rendez-vous en terre inconnue, en prenant une bière à 9h du matin, comme si c'était ça la province, c'est d'un mépris total et ça montre bien ce qu'est ce sinistre personnage qui n'a pas quitté le 6e arrondissement de Paris. Et puis, Édouard Philippe, lui, c'est un peu la tristesse incarnée. Ça fait des années qu'il dit qu'il veut être calife à la place du calife. Il est celui qui est le plus prêt, celui qui a tout bossé, qui propose d'ailleurs un choc massif, un programme massif. On ne sait pas vraiment ce qu'il propose. Ce qu'on sait, c'est qu'il est allé à Kiev comme Bruno Retailleau d'ailleurs, et qu'il en est revenu avec un seul programme, la guerre contre la Russie, la guerre contre Poutine. Visiblement, l'Ukraine intéresse plus les candidats que les Français, ça on le savait, mais ça devient vraiment une base. Et puis il y a tous les autres, alors on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer avec François Hollande, j'en parlais, le sniper du Bloc central. Y aura-t-il d'autres candidats qui vont arriver? Moi je fais une hypothèse, Sébastien Lecornu, tant qu'à faire. Vous savez, Emmanuel Macron n'aime ni Gabriel Attal, ni Édouard Philippe, et par contre, visiblement, il a de la totale confiance de Sébastien Lecornu pour gérer sa legacy, comme il dit, c'est-à-dire son héritage, et je ne ferme pas la porte à une candidature de fin de course, justement, quand tout le monde sera essoufflé et ne montera plus dans les sondages pour Sébastien Lecornu. Et puis, il y en a un qui rigole, bien planqué, qui regarde tout ça, c'est Jean-Luc Mélenchon, avec des sondages qui commencent à le montrer bien plus haut qu'il ne l'a jamais été à un an des présidentielles. Lui n'a rien à faire, il n'a qu'à regarder les traîtres se trahir et le Bloc central essayer de grappiller quelques voix. À gauche, c'est la bérésina entre François Ruffin, Marine Tondelier. Bref, vous aurez compris, il n'y a pas vraiment de liste à faire. C'est vraiment tragique. Et puis un autre qui est protégé, parce qu'il est protégé par le tempo de la justice, c'est Jordan Bardella. On ne sait pas s'il sera candidat. Il le dit lui-même, je ne suis pas candidat, puisqu'il faut attendre de savoir si Marine Le Pen peut ou pas se présenter, ce qui, d'une certaine façon, le protège de cette entrée en matière calamiteuse des uns et des autres candidats.
Alors, merci pour ce tour d'horizon. Alors, Jordan Bardella est protégé pour le moment. C'est, effectivement, le moment, nous saurons en juillet si Marine Le Pen peut se présenter ou pas. Et rassurez-vous tous, Français, le parquet national financier a déjà lancé une enquête sur Jordan Bardella. Donc, et bien sûr qu'il va pouvoir faire mitonner. Il y a comme ça ces enquêtes qui n'aboutissent jamais. Ben, par exemple, les enquêtes sur les attachés parlementaires de Jean-Luc Mélenchon. Là, on attend, on attend toujours. Hein, voilà, donc,
ça y est, c'est fini. Ils l'ont clos, celle-là.
Ah, ils l'ont clos, pardon, excusez-moi. Il y en a d'autres qui sont en cours et pour lesquels on ne connaît pas le résultat. Dans son livre Un peuple en trop, évidemment, le Nicolas Vidal parle d'Edouard Philippe, ce phénix qu'on veut nous imposer. Il le dit, les médias mainstream nous préparent déjà leur candidat pour 2027. C'est Edouard Philippe qu'il nous faut. Oui. Édouard Philippe donc est en train de s'effondrer un petit peu, la dynamique s'essouffle, le chauve du Havre n'a pas l'air d'être aussi aimable et attirant que le prétendaient les journalistes qui pendant 5 ans l'ont maintenu en survie artificielle. Pensez-vous que Édouard Philippe va aller au bout de ce calvaire et qu'il tiendra quand même à se présenter pour faire un score à la Pécresse?
Oui, alors celui qui se dirige vers un score à la Pécresse, c'est Bruno Retailleau, d'une certaine façon, avec les LR qui déjà commencent à le lâcher. Mais pour ce qui est d'Edouard Philippe, il ira jusqu'au bout, je pense. Parce que il y a d'abord un rapport maladif au pouvoir. On le sent dans chacune de ses déclarations, il veut le pouvoir et donc il ne faut surtout pas lui donner, hein, ça c'est la base. Et puis parce qu'il a coché toutes les cases depuis de nombreuses années. Il a trahi qui il fallait, il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais sans avoir à assumer totalement le bilan, puisqu'il était Premier ministre du début jusqu'au Covid. Son bilan, on le connaît, hein, c'est le massacre des manifestants lors des manifestations des Gilets jaunes et le Rivotril dans les maisons de retraite. Donc ça, il suffit de le rappeler à chaque fois pour comprendre combien il est aimé. Au Havre, il a gagné, certes, mais vous savez, les complotistes disent que les machines à voter n'y sont pas pour rien. Et puis, il est passé par le Bilderberg, vous savez, ce club très fermé, atlantiste, où on choisit un peu déjà, on fait un casting de qui seront ceux qui vont compter. Cette année, c'était Roland Lescure qui était, mais Gabriel Attal comme Édouard Philippe sont passés par le Bilderberg. Donc pour lui, il se dit qu'il a toutes les cartes en main. Maintenant, la seule question, c'est aura-t-il les médias ? Je ne crois pas. Les médias, je pense, du Bloc central roulent pour Raphaël Glucksmann. Il suffit de voir France Inter, hein, qui est une sorte de radio Glucksmann, qui va faire la campagne du candidat social-démocrate, ça c'est évident. 7 millions d'auditeurs quand même, quotidiens, qui vont être soumis à une propagande de masse. Hein. Même des chaînes privées, comme le groupe Bouygues, hein, TF1, quand on a vu le média training public qui a été fait à Raphaël Glucksmann par les équipes de quotidiens de Yann Barthès, on a compris pour qui il vote. Voilà, c'était d'une gentillesse et d'une bienveillance uniquement réservée aux candidats du bien. Voilà, donc c'est Édouard Philippe part sans avoir les médias avec lui, même s'il en a certains. Je crois que aujourd'hui, l'oligarchie médiatique n'a pas choisi son candidat, on peut dire ça. Si ce n'est Raphaël Glucksmann, par défaut, parce qu'il est vraiment trop nul.
Ce candidat nul a affaire quand même à une opposition assez organisée. Les gens ne sont pas d'accord pour savoir qui doit être le candidat de la gauche, mais personne ne veut de Raphaël Glucksmann qu'on considère comme étant mou, qui est compromis dans plusieurs trucs, notamment avec son passé à l'étranger, qui a quand même le charisme d'une huître. Dire même Édouard Philippe, par avoir une stature d'homme d'État supérieur, pensez-vous que Boris Vallaud, Faure et les autres vont accepter que Glucksmann passe devant, ou au contraire vont-ils tout faire pour le torpiller ?
Bah non, déjà le problème de Raphaël Glucksmann, c'est pas seulement qu'il est nul, c'est qu'il est de droite, il est pas de gauche. Donc de toute façon, comme il veut s'insérer dans ce bloc de social-démocrate de gauche, or on voit que c'est une opération ratée, de toute façon, avec le PS, la traîtrise est de mise. Donc vous avez déjà les premières déclarations du sénateur Patrice Kanner, par exemple, qui explique que Raphaël, c'est très bien, c'est gentil, mais qu'il ne pourra pas aller à son meeting, par exemple, parce qu'il a des choses personnelles à faire, et c'est bien dommage. Donc évidemment qu'il n'aura le soutien d'aucun responsable du Parti Socialiste, et que là, 80% du temps de travail et de bande passante des responsables socialistes va être comment flinguer définitivement la candidature de Raphaël Glucksmann. D'où d'ailleurs les 3 mois, parce que je pense qu'il n'a pas fait les accords nécessaires pour s'assurer une candidature à peu près sûre. Donc derrière, effectivement, il y aura Boris Vallaud, il y aura Olivier Faure, je ne sais pas combien ils seront en réalité à pouvoir faire ça, mais voilà où nous en sommes, quoi.
Voilà où nous en sommes, effectivement. Merci Alexis Poulain, restez avec nous, on va pouvoir reparler du peuple avec Nicolas Vidal, mais c'est le moment de rappeler à tout le monde que une bonne démocratie, c'est aussi de bons médias, que de bons médias, ce sont des médias indépendants, et ça tombe bien, Radio Courtoisie est totalement indépendant, puisque Radio Courtoisie ne dépend que de vos dons.
Exactement, notre indépendance est la garantie... Pardon, excusez-moi, ça sonne. Merci de nous faire donc des dons en ligne sur notre site soutenir.rc.fr, je vais y arriver. Et puis, vous pouvez également nous envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bien, merci beaucoup Arnaud.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Et voilà, je retrouve avec plaisir Nicolas Vidal, donc, qui est l'auteur d'un petit livre, d'un grand livre, Un peuple en trop, qu'on peut facilement se procurer sur Amazon et peut-être par d'autres moyens, Nicolas.
Ah oui, déjà, je salue l'ami Alexis Poulain qui est là. Hello. Mon cher Alexis, salut par interposé. Oui, alors préférez, si vous voulez l'acheter, bien sûr, préférez l'acheter en direct, il sort aujourd'hui en sortie officielle. Vous n'hésitez pas à aller sur mon Substack, Nicolas Vidal Substack, et vous avez le lien directement sur Pouch, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon, mais privilégiez l'achat direct sur nos médias, notamment de manière à soutenir ce que vous pouvez soutenir. Voilà, donc sur mon Substack, vous n'hésitez pas, vous avez le lien en une, l'article en une, vous avez le lien de vente direct, ou sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, X ou Instagram. Voilà.
Alors, puisque j'ai dit que j'ai défendu la démocratie, ce qui m'arrive assez rarement, je vais enfin avoir la possibilité de poser à deux vrais démocrates la vraie question. Vous nous dites, Nicolas Vidal, un peuple en trop, mais qu'est-ce que c'est que le peuple ?
Mais c'est une notion très très floue, le peuple, hein, bien entendu. On peut dire, regardez, notamment, je pense qu'on peut déjà s'appuyer sur un événement, les Gilets jaunes. Vous voyez qu'il y a pas mal de gens pendant les Gilets jaunes qui n'ont pas participé aux Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui avaient exprimé un soutien assez massif pour les Gilets jaunes, mais qui n'ont pas fait notamment la démarche d'aller soutenir ou du moins de se mêler aux manifestations. Le peuple, concrètement, on pourrait dire que c'est un pays, c'est une langue, on pourrait dire aussi que c'est des gens qui ont envie de vivre ensemble, c'est un avenir en commun également. C'est aussi vouloir protéger peut-être les acquis que nous avons combattus pendant des années, des décennies notamment, et d'avoir cette vision d'un avenir en commun. Ensuite aussi, dans le peuple, il y a aussi la partie vivace, c'est la partie des citoyens, Richard. Ce sont les gens qui, à un moment donné, se sont dit qu'ils ne peuvent pas être uniquement des autruches et tubes digestifs dans ce bas-monde. C'est-à-dire qu'il y a autre chose, il y a un autre horizon que Darty et Ikea. Il y a aussi un autre horizon pour nos enfants, il y a peut-être un autre horizon, à un moment donné, de s'opposer, au moins démocratiquement, à cette caste de zozo. On en a parlé avec Édouard Philippe, Gabriel Attal, parce que Gabriel Attal, je reprends ce que disait Alexis, hein. Il y a eu Gabi mal de fois, maintenant c'est Gabi au café du coin. Bon, peu importe, c'est une campagne politique en tant que telle. Et il y a cette partie du peuple, notamment celle qui fait bouger cette masse critique qui, elle, eh ben, est en train d'essayer de manifester, essayer de se réinformer, écoute Ligne Droite notamment, et essaye d'avoir d'autres informations. Donc le peuple, c'est quelque chose de très évanescent, mais dans ce peuple, il y a aussi les ferments de la cartographie de la colère et de cette population qui aujourd'hui veut dire stop et veut reprendre son pouvoir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, et dans cette déclaration, je fais très vite là-dessus, sur ce cœur battant du peuple, j'en ai parlé des citoyens, vous avez aussi tous ceux dont on a parlé au début de l'entretien qui sont en train de prendre finalement la trahison politique et la trahison économique en pleine face, notamment à la pompe ou l'inflation ou autre. Et bien eux, voyez-vous, ce sont cette partie qui est sédimentée et qui va petit à petit, qui a déjà commencé à prendre conscience et qui va venir à un moment donné nourrir cette espèce de cœur vivant dans le peuple qui va s'opposer frontalement notamment aux politiques économiques de trahison, je le répète une nouvelle fois, pour essayer d'endiguer, arrêter, freiner, ralentir cette course folle vers le chaos, parce qu'il est question de chaos aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Rappelez-vous ce que disait Édouard Philippe, j'en parlais notamment dans La Tempête qui vient. Édouard Philippe, en mai 2021, était à l'ESSEC pour les mardis de l'ESSEC, et il avait cette fameuse déclaration, enfin une déclaration, pas une déclaration, il était en train de faire une conférence, notamment, et il disait, vous voyez, on a fait la loi sur les universités, on a pensé que ça allait tout bloquer, et en fait, c'est passé. La réalité aujourd'hui, c'est qu'avec la crise économique, dans cette équation absolument folle d'effondrement économique, il y a une partie de la population de peuple qui rejoint la cohorte et des citoyens qui, tous les jours, est un peu plus grosse. Et c'est ça, à un moment donné, qui pourrait faire basculer les choses, puisqu'on l'a dit, aujourd'hui, le jeu démocratique tel qu'on le voit, avec 78 candidats qui sont déjà prêts pour 2027, sachant qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas donné les dates, il faut quand même se le dire, monsieur n'a toujours pas voulu donner la date de présidentielle, peut-être qu'il a envie de faire du rap, je sais pas, comme son ami Kokozozo Zelensky, mais voilà, donc le peuple, c'est compliqué, mais je veux dire, le peuple en trop, c'est ce peuple qui a compris, qui sait qu'on est en train de trahir, très clairement, et qui en paye les pots cassés, mais qui veut essayer par tous les moyens, mais aujourd'hui, c'est l'expectative d'essayer de réagir pour essayer, à un moment donné, de ralentir cette course folle vers le chaos, cher Richard.
Alexis Poulain, je vous poserai la même question. Le peuple, nous sommes en démocratie, mais donc ce démos, quel est-il? Comment est-il composé? Ceux uniquement qui se sont réveillés sont aussi ceux qui ont décidé en fait de subir et qui votent de moins en moins, qui se retirent de la vie d'un pays qui ne veut pas d'eux?
Oui, je crois qu'il y a des peuples. Le peuple politique, c'est celui qui va encore voter, c'est celui qui s'intéresse à ce spectacle triste ou qui essaye de réfléchir et voilà, qui va s'engager. Ça, c'est minuscule. Vous avez effectivement en France le premier parti de France qui est le parti des abstentionnistes, parce que ça fait longtemps déjà qu'une grande partie du peuple s'est volontairement sorti du jeu politique, volontairement dépolitisé, par dégoût, par manque d'intérêt, par acceptation aussi, par renoncement. Et c'est vrai que cette base des abstentionnistes, elle est quasiment oubliée de la plupart des candidats, pas de tous, mais de la plupart, parce qu'elle est difficile en fait à toucher et à faire retourner aux urnes d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est dans un système clos, en fait. Le système politico-médiatique ne permet pas aux voix souverainistes d'avoir une existence médiatique mainstream, ne permet pas à certaines idées politiques d'avoir une existence mainstream. Donc on est dans un système clos qui se protège, qui empêche en fait l'émergence de ce qui pourrait être l'alternative populaire. Et c'est bien tout ce qui est aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y avait des alternatives populaires, elles sont bien faites, puisqu'elles sont faites pour diviser. D'un côté, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Et c'est deux peuples qui ne doivent pas se parler, si on regarde comment tout ça est fait. Mais si on réfléchit, ça n'a aucun sens, puisque en réalité, il y a les mêmes intérêts des Français qui sont pressurisés, les Nicolas qui paient, ceux qui en ont vraiment ras-le-bol de voir l'État kleptocrate continuer de les faire travailler pour un système qui n'est même pas un système d'ailleurs socialiste, qui est un système simplement où on fait fructifier l'argent pour payer du Gérard Larcher et des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est un jeu à somme nulle en réalité.
Nicolas Vidal, dans son jeu à somme nulle, vous soulignez à plusieurs reprises qu'il y a quand même donc cette caste et surtout qu'il y a une opposition qui en fait ne sert rigoureusement à rien. Dire c'est ce que vous dites, 31, page 31, l'opposition qui ne s'oppose à rien. Les caméras s'éteignent, les micros se coupent, rien ne se passe, rien ne s'est jamais passé. Vous venez de faire la liste en fait de la trahison des agriculteurs, de l'indécence des augmentations à l'Assemblée nationale, de l'accord Mercosur, de la soumission à Bruxelles. Et à chaque fois, on se dit bah, très bien, il y en a qui vont quand même être d'accord avec le peuple qui manifeste, le peuple qui sondage après sondage explique qu'il n'est pas d'accord, les agriculteurs qui courageusement se lancent sur les routes. D'ailleurs, voilà, les préfets leur mettent la misère tout de suite, voilà, dans le Gers, plus de 40 convocations pour les participants à la manifestation de 2025-2026. En fait, pourquoi l'opposition parlementaire est-elle à ce point-là inexistante, ou plutôt pourquoi donne-t-elle l'impression d'un théâtre où chacun joue son rôle, mais où en fait il s'agit juste de se partager les bénéfices de la pièce?
Moi, je pense, et ça, c'est une vraie problématique, je pense qu'il y a une carrière politique derrière, il y a une logique des partis, une politique des partis de tous les côtés, de l'arc de l'hémicycle. Vous avez déjà des députés qui sont très bien payés. J'invite tous nos auditeurs à aller voir sur assemblée-nationale.fr les indemnités des députés, les avantages en tout genre. Donc, son député, c'est très bien payé pour le boulot qu'il fait, parce que franchement, moi, j'avais fait un article sur mon Substack il y a quelques mois de ça, sur le taux d'absentéisme des députés français. Hein. Tout bord confondu, c'est absolument colossal. Donc, il y a ce jeu politique. Vous avez des députés aussi qui, parfois, ont des idées très intéressantes, mais quand ils arrivent dans un parti un peu structuré, on leur fait vite comprendre que s'ils la ramènent, manifestement, s'il y a dissolution ou s'il y a nouvelles élections, sur leur circo, ils ne seront pas réinvestis, voyez-vous. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de carrière politique. Également, l'Assemblée nationale ou le Parlement européen sont des cash-machines pour les partis. Il ne faut quand même jamais l'oublier, hein, parce que c'est une véritable cash-machine. Et dans ce cas-là, vous avez aussi une nouvelle fois la question centrale, c'est-à-dire les partis ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc, on essaye, via les députés, de donner l'apparence du fait que, on est contre l'Union européenne, mais on ne veut pas prendre position. Regardez un exemple, notamment, on a deux exemples. La réélection d'Yael Braun-Pivet en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous savez, la dame qui fait garder ses poules par les CRS, notamment. Eh bien, lors de sa réélection, vous avez quand même des ministres qui étaient députés, qui sont, pendant le vote à trois tours, qui ont quitté la casquette des ministres, qui sont revenus députés, qui ont voté, qui se sont remis au banc des ministres. Je veux dire, pourquoi les oppositions, à un moment donné, n'ont pas crié au scandale et n'ont pas, à un moment donné, peut-être fait un blocage institutionnel ou sur le vote de la résolution du Mercosur? Ah ben oui, ils sont tous allés, bien sûr, voter, et c'est d'ailleurs la seule fois, je pense, qu'il y a eu du monde. Ils n'avaient pas piscine ce jour-là, apparemment, les clubs de bridge étaient fermés, et ils sont tous allés voter contre la résolution sur le Mercosur. Mais à un moment donné, et j'ai vu des députés qui étaient plus souverainistes nous faire des petits tweets, parce qu'ils ont voté. Ils ont voté non. Des petits tweets avec des bouteilles de champagne, on a gagné. Mais de qui ces gens se moquent-ils, en fait? De qui ces gens se moquent-ils? La réalité, c'est que soit ils savent pas que le Mercosur, c'est la compétence exclusive de la Commission européenne, soit ils pensaient vraiment avoir gagné et que le Mercosur serait abrogé, notamment pour le cadre français. Ces gens-là, voyez-vous, c'est une catastrophe. Également, c'est pareil sur l'aide à l'Ukraine, l'aide financière à l'Ukraine. Macron, il a signé des contrats bilatéraux avec Okozo-Zelensky à l'Elysée, tout seul comme un grand. Et il y a eu, à un moment donné, un vote pour savoir si, en fait, ces votes étaient notamment des votes consultatifs. Ils auraient pu faire la Macarena de Bastille à Nation, ça aurait eu absolument le même poids. Donc, vous avez des députés qui, par contre, se pressent, salle des quatre colonnes. Les salles des quatre colonnes, pour les auditeurs, c'est vraiment la salle de l'Assemblée nationale où vous, les médias, tendent de la perche, tendent le micro pour avoir les réactions. Donc, ce jour-là, quand il y a des votes comme ça, qui sont assez médiatisés, qui ne servent à rien, ils y sont, ils font style, ils votent, ils font toutes les matinales et toutes les émissions du soir pour expliquer que c'est formidable et qu'eux, ils vont se mobiliser. Mais la réalité, vous l'avez dit, Richard, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun pouvoir pour s'opposer, notamment à la Commission européenne. Et c'est une véritable problématique, parce que c'est pareil sur le Parlement européen. On vous dit c'est un Parlement. Non, c'est pas un Parlement, parce qu'un Parlement, c'est absolument pas ça. Et on vous dit, ah, mais vous comprenez, je vais aller au Parlement européen pour défendre les intérêts des Français. Non, tu vas pas défendre le Parlement européen. T'es surtout très bien payé. T'as surtout pas mal de collaborateurs autour de toi et pas mal d'avantages. Donc on se rend compte qu'il y a une véritable fracture entre les représentants, les députés, si vous préférez. On parle même pas de Gérard Larcher, le monsieur fauteuil 40 000 euros et au resto matin, midi et soir. Mais cette fracture-là, il y a un monde, finalement, du régime parlementaire qui est complètement déconnecté. On le rappelle dans le livre, on a été nombreux à le rappeler, notamment les augmentations de 700 euros au Sénat et de 300 euros à l'Assemblée nationale qui n'avaient pas été annoncées publiquement. C'est ça qui est intéressant. Et les oppositions n'en avaient pas parlé pour faire face à l'inflation. J'invite nos auditeurs à écrire à leur DGFiP local pour leur demander d'avoir un abattement de 20% pour faire face à l'inflation. Je pense qu'ils vont avoir une réponse avec un sens de l'humour plus qu'approximative, me semble-t-il. Et donc, ce problème de la représentation nationale des députés et des sénateurs, vous l'avez dit, quand vous avez Gérard Larcher qui vient chez Apolline de Malherbe La Vérité en nous expliquant qu'ils vont s'arrêter avant le 14 juillet parce qu'il va falloir préparer les petites tambouilles pour la réélection sénatoriale, ça a quand même du goût, tout ça. Eh bien, on se rend compte que les Français ne sont pas dupes, mon cher Richard. C'est-à-dire que les Français voient bien qu'à un moment donné, on leur raconte n'importe quoi, on leur raconte beaucoup de communication, mais qu'en réalité, derrière, les manettes, ils ne les ont plus. Les députés n'ont pas les manettes. Et pourtant, ils essayent de, à un moment donné, de justifier leur généreuse indemnité, leur généreux avantage. Et c'est pour ça qu'ils font beaucoup de plateaux, beaucoup de matinales. Alors, ils sont très disponibles pour faire des matinales et des plateaux. Par contre, ils sont moins disponibles quand il faut être en séance. C'est assez formidable. Et moi, je le répète, je suis très inquiet. Et ce peuple en trop, en fait, c'est ce peuple qui a été littéralement excommunié. Et puis aussi, je termine par là, le problème de la fracture, c'est que les députés aujourd'hui, ils ne réagissent qu'en fonction de leur intérêt personnel, en fonction du groupe et du parti politique qui est derrière, parce qu'ils risqueraient de ne pas être réinvestis, ils risqueraient d'être sortis à droite à gauche des commissions, et ils risqueraient d'être éloignés du banquet de la République payé par nos impôts. Si, alors que le député, normalement, il devrait voter à l'âme et conscience sur des sujets qu'il juge importants, et dans lesquels il devrait faire valoir sa loi et sa voix, notamment. S'il fait le contraire, eh bien, vous imaginez bien qu'il sera mis à l'écart. Et ça, c'est pareil pour tous les groupes. Il faut arrêter de se leurrer. C'est absolument pareil pour tous les groupes. Il y a des consignes de parti. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est terrible parce que ça ne durera qu'un temps. Et c'est les derniers soubresauts d'un chaos politique dont une partie du peuple ne peut plus aujourd'hui, est en train de payer les pots cassés et est en train de payer chèrement, quoi.
Eh bien, merci beaucoup Nicolas Vidal. Voilà, ben, ceux qui regrettaient de ne plus vous voir en ont eu une bonne dose. Et j'espère qu'un peuple en trop leur permettra de prolonger ce moment. Merci pour ce moment, comme merci. On dit, je crois, en République.
Oui. Et
à très, j'ose pas vous dire à bientôt sur Radio Courtoisie, mais j'espère évidemment que le prochain pamphlet nous permettra de vous retrouver.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Seize.
Avec Richard de Seize, mais surtout avec Alexis vous appelez Alexandre, c'est ça?
Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Richard?
J'étais tellement content d'avoir entendu Alexis Poulain, en fait.
Oui, c'est vrai.
Je suis désolé, Alexandre. Voilà, donc tout à l'heure, nous recevons Charles-Henri Gallois. Il y aura bien sûr la chronique de Pascal Pointu. Et tout de suite, avec Alexandre de Galzin, un peu d'actualité.
Oui. Après 11 semaines d'audience, le procès en appel de Nicolas Sarkozy s'est achevé par la plaidoirie de la défense cette semaine. Moins médiatisé que le premier, ce procès devrait aboutir à une décision finale radicalement différente de la première selon la plupart des experts. Ce sera tout ou rien. Et puis la Cour des comptes s'est attaquée à la décision d'Emmanuel Macron de renationaliser intégralement l'entreprise d'État EDF. La prise de contrôle établie en 2022 avait coûté près de 9,7 milliards d'euros pour des avantages difficilement identifiables selon l'institution. Et puis on apprenait hier sans grand témoin dans les grands médias nationaux qu'un Turc de nationalité suisse de 31 ans avait poignardé au moins 3 personnes, dont une grièvement au cri d'Allahu Akbar près de la gare de Winterthur en Suisse. Et puis enfin, je rappelle que nous célébrons ce 29 mai Saint-Aymar, Sainte-Géraldine, Saint-Martory et Saint-Maximin.
Merci beaucoup, Alexandre.
Ligne droite.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous allons débattre de la manière dont le Bloc central redécouvre l'immigration et a l'air de considérer qu'il pourrait s'agir d'un problème. Et nous allons en parler avec Charles-Henri Gallois. Bonjour.
Bonjour Richard de Sèze.
Vous êtes le conseiller économique de Jordan Bardella au Parlement européen. Et vous avez un péché mignon, c'est qu'en fait vous vous souvenez de ce que disent les gens. Et donc là, on est très surpris. Gabriel Attal nous explique qu'il faudrait reconsidérer que les titres de séjour délivrés pour le travail n'ouvrent plus droit au regroupement familial. Le candidat Horizon explique qu'il faut assumer qu'on a besoin d'une immigration parce qu'on a une population active qui se contracte. Brusquement, l'immigration devient un problème en France avec des gens qui l'ont pourtant défendu des années durant.
Oui, alors je pense que comme beaucoup de Français, moi j'en ai un peu marre qu'on prenne les gens pour des imbéciles, parce que ce soit Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, enfin je veux dire, nous expliquer aujourd'hui qu'ils vont réduire l'immigration, c'est aussi crédible que si Georges Soros nous expliquait qu'il luttait contre l'immigration, si on confiait à Bruno Le Maire de réduire la dette publique ou à Dominique Voynet de relancer le nucléaire. Enfin, faut être sérieux, au bout d'un moment, ces gens-là, ils ont été au pouvoir, ils ont un bilan. C'est-à-dire que sous la Macronie, on a battu année après année des records d'immigration. Édouard Philippe, quand il était Premier ministre, on a fait plus d'un million d'immigrés en plus. Et il a eu réussi l'exploit quand même en 2020, année du Covid, il a fermé les frontières pour tout le monde. Mais il a réussi l'exploit de faire plus de 300 000 immigrés en 2020 alors qu'il y a eu l'année du Covid. Un million de personnes, c'est l'équivalent, sous Édouard Philippe, des populations cumulées de Toulouse et de Lyon qui sont entrées sur le territoire national. Gérald Darmanin, le plus mauvais ministre de l'Intérieur de l'histoire de France, qui a battu tous les records aussi au niveau de l'immigration. Sous Gérald Darmanin, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont arrivées. C'est l'équivalent de la population de la ville de Paris. Il se moque de qui? C'est-à-dire que sous Gérald Darmanin, on faisait 3 fois plus d'immigration que sous Lionel Jospin. Donc on sait que Gérald Darmanin, enfin, il a la réputation du menteur du Stade de France, mais là, on aura l'occasion aussi d'aller dans les propositions. Ça va très loin, je rappelle que Gabriel Attal était Premier ministre que 6 mois, mais c'était en 2024, et c'est pareil, c'était l'année du record précédent d'immigration avant celui de 2025, où on est maintenant à 500 000 immigrés par an qui rentrent en France. Chaque année, sous la Macronie, désormais, vous avez l'équivalent de la population de la ville de Toulouse qui rentre en France. Et ce sont les mêmes qui vous expliquent qu'il y a peut-être un problème, on fait trop d'immigration. Ces gens-là se moquent du monde, c'est pas sérieux en réalité, c'est pas sérieux. Et après, on peut même aller dans le détail des propositions, parce que c'est les rois de l'enfumage. Ils vous expliquent qu'il faudrait réduire drastiquement l'immigration. Alors, ils ont compris que le Rassemblement National a gagné la bataille des idées là-dessus, donc maintenant, ils utilisent nos mots. Sauf qu'on l'a vu dans les faits, c'est pas le cas, et même dans leurs propositions, en fait, c'est pas le cas. Si vous regardez, en fait, ils vous disent, Édouard Philippe vous dit, on a besoin d'immigration de travail. Donc, en fait, il veut continuer l'immigration de travail. Et ça, c'est le vrai mythe, en fait, ce truc. Parce que quand vous regardez les titres de séjour d'immigration de travail, ce qu'on appelle les fameux métiers en tension, c'est essentiellement du BTP, de la restauration, des métiers de service, de logistique. Vous n'allez pas me faire croire qu'avec 6 millions de chômeurs en France, on n'a pas les compétences pour occuper ces métiers-là. La réalité, c'est que l'immigration de travail, bien souvent, sauf quelques métiers spécifiques, très qualifiés, évidemment, ça va fermer le robinet quand on n'a pas la compétence, mais sur ces métiers-là, c'est avant tout des métiers qui sont difficiles et mal payés. Donc qu'est-ce qu'il veut faire avec l'immigration de travail? Il veut faire pression à la baisse sur les salaires. C'est la même chose Gabriel Attal, hein, quand vous regardez les propositions de Gabriel Attal, Gérald Darmanin, en fait, pourquoi c'est de l'enfumage? Ils vous disent, l'immigration de travail, on touche pas, l'immigration étudiante, ils n'en parlent pas, bon forcément Édouard Philippe ne va pas en parler, parce que en 10 ans, l'immigration étudiante, elle a augmenté de 70%, c'est maintenant le premier pourvoyeur d'immigration, et Édouard Philippe, en 2019, il a lancé le programme France Bienvenue, qui a pour but ultime, peu importe la sélection, 500 000 étudiants étrangers par an en France. C'est la proposition d'Édouard Philippe, le même qui nous dit qu'il va lutter contre l'immigration.
On n'en est qu'à 437 000, donc encore voilà, un effort, encore et un on effort va finir par y arriver.
On va y arriver, exactement. Il y a le droit d'asile, les demandeurs d'asile, ils n'en parlent pas. En fait, ils ne parlent que du regroupement familial, qu'ils ne veulent pas arrêter, qu'ils veulent restreindre.
Et le droit d'asile, au contraire, a étendu sans cesse le champ de ceux qui sont éligibles au droit d'asile.
Bien sûr, on bat les records année après année, et évidemment, le champ est de plus en plus large. Donc en fait, les propositions où vous disons lutte contre l'immigration, quand vous analysez sérieusement et que vous allez dans le détail des propositions d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal, Gérald Darmanin, en fait, c'est passé de 500 000 à 450 000. Formidable. C'est ça, en fait, la réalité. Et ils en font des tonnes. Et effectivement, par les mots, ils essayent d'enfumer les Français. Mais je pense que déjà, compte tenu de leur bilan, et puis on sera là aussi pour évidemment décortiquer leurs propositions quand il y aura les débats qui vont bien. Mais c'est vraiment pas sérieux, en fait, et c'est vraiment se moquer du monde. Ces gens-là, excusez-moi, sont des guignols, et je pense que les Français s'en rendent compte aussi bien au niveau de leurs résultats que leurs propositions qui sont pas très sérieuses.
Alors, en plus, ils expliquent qu'il faut diminuer le regroupement familial, alors que c'est l'un des canaux les moins prolifiques, et que par rapport à l'immigration clandestine, dont ils ne parlent pas, par rapport à l'immigration de travail, dont on a vu qu'en fait, elle était inefficace, parce que ces gens qui prétendent venir chercher un travail en France, en fait, ne travaillent pas au bout d'un an, ne travaillent pas au bout d'un an et demi, ne travaillent pas au bout de 6 mois. Autrement dit, ceux qui prétendent venir chercher du travail, en fait, se retrouvent assujettis sociaux.
Le taux de chômage chez les immigrés est 2 fois supérieur à ce qu'il est chez les Français, effectivement. Alors, le regroupement familial, ça dépend de la définition qu'on en fait. Les motifs familiaux, au sens large, c'est quand même le deuxième pourvoyeur. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, ce n'est pas tous les motifs familiaux qui veulent restreindre. Donc, encore une fois, c'est passé de 500 000 à 450 000. Et il faut bien comprendre que les Français, eux, l'ont compris que l'immigration posait évidemment un problème, l'immigration massive, parce qu'on nous fait le discours de la France a toujours été un pays d'immigration, c'est se moquer du monde. La France a toujours eu un petit peu d'immigration, et encore, c'est un phénomène très récent, ça a commencé essentiellement au 19e siècle, dans des proportions incomparables, et l'immigration massive est un phénomène qui est très récent et qui ne fait pas du tout partie de l'histoire de France, contrairement à tout ce qu'ils vous racontent. Évidemment que l'immigration massive pose problème. Ça pose problème, et c'est assez évident, je pense qu'on s'en rend compte sur la délinquance. Hein. On voit bien qu'il y a à peu près 8% d'étrangers, ils représentent un quart des places de prison. Dans tous les crimes et délits, il y a une surreprésentation de l'ordre de 1 à 1,3, ça monte jusqu'à 1 à 10 pour certains types de délits. Donc évidemment, quand on analyse sérieusement les statistiques, il y a un lien évident entre immigration et délinquance. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont des délinquants, c'est pas ce que je dis, mais ça veut dire qu'il y a cette surreprésentation, donc il y a un lien évident entre immigration et délinquance. Maintenant, il y a aussi les problématiques économiques, et vous en parlez, avec le travail, et je pense qu'il faut que les Français soient conscients de ça. On parle souvent du logement, quand même pour le pouvoir d'achat, c'est le premier poste de dépense des ménages. Bien sûr, le logement, on veut nous faire croire que l'immigration n'aura aucun impact, mais quand vous construisez chaque année 350 000 logements, et que vous faites venir 500 000 personnes par an, je veux dire, la loi de l'offre et de la demande, elle marche partout, elle marche sur le logement. Évidemment que l'immigration met une pression considérable sur le logement. 35% des étrangers sont dans des logements sociaux. Donc c'est des logements sociaux, notamment d'ailleurs pour les métiers en tension, ce qui permettrait de fonctionner un peu mieux. Et peut-être que des métiers de type serveur et autres, si les logements sociaux étaient réservés aux nationaux, comme le proposait le RN, il y a des Français qui accepteraient de faire ce travail et on ne ferait pas venir de la main d'œuvre pour faire pression à la baisse sur les salaires. Donc la question du logement est là. Vous avez aussi évidemment la question des prestations sociales. Les prestations sociales non contributives, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent sur le territoire national et qui vont bénéficier sans avoir jamais travaillé, du RSA, de l'AAH, des allocations familiales, demain aussi du minimum vieillesse. C'est 20 milliards d'euros les prestations sociales non contributives versées aux étrangers chaque année. Donc oui, il y a un coût de l'immigration, il y a une pression aussi, qu'on le veuille ou non, je parlais du logement, mais il y a une pression sur l'hôpital, sur l'école. Je veux dire, tout ceci, ça a un coût. Et d'ailleurs, les études sérieuses le montrent, que vous preniez celle de l'OCDE, celle de Gourevitch, celle de Miloz, en gros, c'est estimé chaque année, le coût de l'immigration, entre 30 et 50 milliards d'euros par an. Donc on peut nous dire ce qu'on veut, en fait, l'immigration massive n'est ni une chance pour la France, ni une bonne chose, et je pense que les Français, eux, s'en sont rendus compte depuis longtemps, et que certains politiques qui ont prôné l'inverse quand ils étaient au pouvoir commencent à s'en rendre compte, mais c'est trop tard en fait, ils sont plus crédibles. Et je pense que tous les Français qui veulent changer la donne en matière migratoire ne s'y trompent pas, et d'ailleurs votent massivement d'après les sondages d'opinion pour le Rassemblement National.
Alors, vous avez raison de parler d'abord du bloc central tel qu'il, à travers ses représentants emblématiques, voilà, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, Gabriel Attal, ancien Premier ministre, ils ont été nuls, Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, actuel ministre de la Justice, il a été nul, il le dure, il l'est encore, mais Roland Lescure a expliqué qu'en fait, c'était très mal et que cette dérive rassemblement nationaliste du camarade Attal ou du camarade Darmanin ou du camarade Philippe était
mal parce que, je le cite, l'immigration légale, l'immigration de travail fait partie des chances pour la France. Quand vous visitez des usines françaises, vous croisez des Irakiens, des Soudanais, des Albanais, nous explique le directeur général de BPI France. Comment réindustrialiser la France alors que trop peu de nos jeunes veulent travailler dans nos usines? On ne peut pas vouloir être prospère sans immigration. Vous voyez, le gouvernement, lui, est hyper immigrationniste.
Mais c'était la ligne d'Emmanuel Macron quand il arrive en 2017. Mais je veux dire, Roland Lescure, il se moque du monde. Encore une fois, les titres de séjour pour travail, c'est essentiellement dans la restauration, le BTP, des métiers de logistique. Pas du tout dans l'industrie, donc il raconte n'importe quoi. Et en fait, il prend aussi les Français pour des imbéciles parce que les titres de séjour pour travail, c'est environ 50 000 personnes. Je vous l'ai dit, il y a 500 000 personnes qui viennent par an. S'il y en a 50 000 qui viennent pour travailler, les 450 000 autres qui payent, c'est les Français. Donc, en fait, ce monsieur se moque du monde. C'est un idéologue qui n'est pas dans la réalité. Mais cela dit, enfin, Gabriel Attal n'est pas dans la réalité non plus. Parce que Gabriel Attal dit « je vais restreindre le regroupement familial, je vais mettre des quotas d'immigration ». C'est impossible à faire sans modifier la Constitution, ce qu'ils ne proposent pas. Donc en fait, c'est des gens qui font de la communication, qui ne sont pas sérieux, qui n'ont pas les solutions, de toute façon, pour la France, parce que les Français l'ont vu sur les dernières années, et qui n'ont bien évidemment pas les solutions pour résoudre le problème migratoire.
Alors, ils n'ont pas les solutions, mais ils ont le discours, et notamment, on sent que c'est aussi la manière dont Giorgia Meloni est réputée avoir délivré 500 000 visas en tant que présidente du Conseil italien, 500 000 visas donc pour faire rentrer des immigrants en Italie, qui encourage Édouard Philippe à se dire, bah, après tout, si quelqu'un qui a l'air d'être vachement proche du Rassemblement National fait ce genre de choses en Italie, autant qu'on le fasse en France. Mais justement, quand on
vérifie... Je suis pas d'accord déjà avec le fait qu'il faille vers des visas en plus, et la situation italienne n'est pas du tout la même qu'en France d'un point de vue de la natalité, d'un point de vue de la démographie, c'est pas du tout la même chose déjà qu'en France.
Ils mentent en plus et ils n'ont pas
6 millions de chômeurs non plus comme on a. Donc, et cette immigration de travail aussi, ce qui est intéressant quand même, ça montre que les macronistes, au-delà d'être des menteurs patentés, en fait sont des ringards, et finalement on dit combat de retard, parce que je veux dire, cette immigration de travail à l'heure où la France compte 6 millions de chômeurs, et surtout à l'heure de la robotique et de l'IA qui pourra à terme, notamment avec des robots humanoïdes, remplacer des travails pénibles avec peu de valeur ajoutée. En fait, se dire qu'il faut faire venir encore de la main-d'œuvre étrangère pour ça, en fait, ça montre une absence totale de vision du monde, et une vision, en fait, comme il en sur à peu près tous les sujets, il suffit de regarder d'ailleurs Édouard Philippe, une vision assez ringarde de la société.
Alors, et d'ailleurs, donc, je donne juste les chiffres de l'OCDE. L'immigration permanente pour motif de travail a baissé de 70% dans les deux ans suivant l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni.
Oui, c'est
donc,
plus, c'est faux.
Lui, il a lu quelque part 500 000 visas, il le répète, en fait, voilà, en 2023 et 2024, il a eu moins d'introductions de travail en Italie qu'en France, où l'immigration pour motif économique est structurellement minoritaire.
Et c'est voilà. Étalé sur plusieurs années, en fait, pas du tout, il sait faire croire que ce serait 500 000 par an comme ce qu'ils font eux, non, pas du tout. En plus de ça, et encore une fois, je pense que l'Italie n'est pas comparable à la France, et de toute façon, on a une politique encore plus drastique de baisse des flux migratoires, sans compter d'ailleurs aussi les flux inversés dans certains cas. Je pense notamment aux étrangers criminels et délinquants qu'il faut bien sûr expulser, ce qui inverse le flux sur ces cas précis.
Alors effectivement, cette inversion des flux migratoires, on pourrait appeler ça la remigration. Et est-ce que le Rassemblement National a une politique en matière de remigration?
Je pense qu'il faut être sérieux. Il y a toujours... Je veux dire, on ne va pas interdire un Français de faire venir son conjoint. Il y a quelques domaines très spécifiques, encore une fois, pas du tout dans les métiers dont on a parlé en tension, où vous n'avez pas la compétence. S'il y a une pénurie de médecins, moi je pense qu'il faut former des médecins français, mais sur le court terme, vous êtes peut-être obligé d'avoir recours sur certaines niches très spécifiques à de la main-d'œuvre étrangère. Pareil, quand on a eu l'affaire de la corrosion dans les centrales nucléaires françaises, on n'avait plus la compétence parce qu'Emmanuel Macron a saccagé le nucléaire, on a dû faire venir des chaudronniers américains. Bah, quand vous n'avez pas la compétence, vous êtes bien obligé. Mais ça, on parle de chiffres de niches et ça concerne finalement très peu de personnes. C'est la même chose sur l'immigration étudiante, il faut la réduire de façon drastique, il faut mettre des critères de ressources aussi, de filières assez précises pour la réduire, mais vous n'êtes pas à la zéro, vous allez toujours accueillir des échanges universitaires, donc c'est pas très crédible de dire que vous êtes en immigration négative, mais il faut évidemment réduire drastiquement les flux, et aussi, si j'ose dire, trier le bon grain de livret, c'est-à-dire encore une fois, oui, les flux inversés, il faut les assumer, notamment... En matière des délinquants et aussi des personnes qui sont à la charge de la société depuis des années, qui n'ont pas la nationalité française, en fait, on n'a pas vocation à les prendre en charge pendant des années. Donc, quelqu'un qui est en chômage depuis des années, il n'a pas vocation à renouveler son titre de séjour. Il a vocation à rentrer, évidemment, dans son pays.
C'est ce que font d'autres pays, d'ailleurs.
C'est ce que font la plupart des pays. Parce qu'on dit ça, on est accusé directement d'être horrible. Mais c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que font la Suisse. C'est même, excusez du peu, hein, ce que font, d'ailleurs, pour réserver les prestations, ce dont je parlais, les prestations sociales non contributives aux nationaux, c'est ce que font les pays du Maghreb. Donc moi, ça m'amuse, en fait, quand il y a tous ces gens qui nous accusent de racisme quand on dit ça, en fait, est-ce qu'ils considèrent que les pays du Maghreb sont des pays racistes ? Il faut leur poser la question.
C'est une très bonne question.
Et quand vous avez quelqu'un de gauche en face, généralement, il bégaye quand vous lui dites ça.
Voilà. Effectivement, quand on voit la politique de l'État tunisien en matière d'immigration, on pourrait se poser malgré tout cette question-là. Vous l'avez souligné, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Édouard Philippe proposent des solutions qui en fait sont anticonstitutionnelles, ne correspondent pas aux lois qui ont été votées en France, ne correspondent pas aux lois fondamentales françaises, ne correspondent pas aux lois de l'espace européen. Et le Rassemblement national a-t-il, lui, des propositions de loi qui permettent à l'intérieur de ces cadres-là de véritablement inverser la tendance?
Bien sûr, on a conscience des verrous. D'ailleurs, j'en parlais dans mon dernier livre qui traite d'énergie et d'immigration. On a conscience des verrous qui sont multiples, et les traités internationaux, évidemment la question de l'Union européenne, la question aussi de la CEDH, mais aussi la question qu'on élude souvent des juges nationaux, des jurisprudences, notamment sur le regroupement familial, du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État. Et donc le moyen pour reprendre le contrôle sur tous ces aspects-là en matière migratoire, c'est ce que propose le Rassemblement national, et on a déjà dit qu'on le ferait lors du premier tour des élections législatives qui suivront la présidentielle, c'est de faire un référendum constitutionnel sur l'immigration avec toutes les séries de mesures qu'on veut mettre en place, comme la suppression d'ailleurs du droit du sol, et avec ce bouclier constitutionnel, comme dans l'ordre juridique interne français, il n'y a rien au-dessus de la Constitution est au-dessus des traités internationaux, évidemment la Constitution est au-dessus du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État qui se doivent d'appliquer la Constitution, et bien ça permet de reprendre entièrement le contrôle sur l'immigration. C'est pour ça que ce qu'on propose est crédible, au contraire de ce que propose quelqu'un comme Gabriel Attal qui n'est pas très sérieux en réalité.
Alors, ce sera ma dernière question, mais les tailles, ce référendum constitutionnel, il faut que vous puissiez l'organiser. Or, le Conseil constitutionnel, et déjà Laurent Fabius nous l'expliquait, a décidé qu'il était compétent pour expliquer ce qui est référendum ou pas référendum. Et donc, l'immigration, selon le Conseil constitutionnel, jusqu'à maintenant, a l'air de faire partie des choses sur lesquelles le référendum n'est pas possible.
Mais s'il bloque, de toute façon, il suffit de faire un référendum pour changer la Constitution et faire rentrer la question de l'immigration et d'autres thématiques dans le champ possible des référendums. Et j'ajoute que de toute façon on peut le faire via l'article 11 et que le Conseil constitutionnel serait bien mal avisé de répugner cet article 11 parce que c'est avec cet article-là que De Gaulle a inscrit l'élection du président de la République au suffrage universel, et si en fait il va contre ça, ça veut dire qu'au niveau de la jurisprudence, il considérait que toutes les élections présidentielles qui ont eu lieu depuis 65 sont nulles et non avenues parce que ça serait un viol de la Constitution. Donc au d'un moment, il faut être cohérent, il faut être sérieux. En démocratie, en tout cas c'est comme ça que l'entendait le général De Gaulle, le souverain c'est le peuple, la Cour suprême c'est le peuple, et donc c'est au peuple de décider de reprendre le contrôle ou non de sa politique d'immigration, et moi je suis assez certain qu'ils iront dans notre sens sur ce sujet comme sur tant d'autres.
Formidable. Il nous reste juste 2 minutes, donc profitons-en. Donc, c'était ma dernière question, en fait non, c'était l'avant-dernière. Dans ces déclarations, est-ce que vous voyez l'affolement du Bloc central par rapport à la progression du Rassemblement national et le fait d'une tentative désespérée d'aller chercher des électeurs de droite, ou est-ce qu'il y aurait une once de sincérité?
Non, ils sont complètement aux abois. J'ai encore vu Édouard Philippe hier qui nous expliquait, alors qu'il nous a dit j'ai un projet très sérieux économique sur les retraites. Alors même lui est conscient en fait que s'il gagne, il sera otage de la gauche, parce qu'il dit comme je serai élu avec des voix de gauche, je le ferai pour pas froisser par référendum au niveau du premier tour. En fait, la réalité, ce qu'ils savent, que ce soit Gabriel Attal ou Édouard Philippe, c'est qu'ils n'ont aucune probabilité d'avoir une majorité absolue après une victoire à l'élection présidentielle, parce qu'ils sont encore plus bas qu'ils étaient en 2024. En 2024, je rappelle quand même qu'aux législatives, entre victoire au premier tour et qualification au deuxième, ils étaient présents que dans 267 circonscriptions. C'est-à-dire que même à 100% de réussite, ce qui est impossible, d'ailleurs 80 de leurs candidats s'étaient désistés parce qu'ils n'avaient aucune chance, eh bien c'est strictement mathématiquement impossible qu'ils aient une majorité absolue. Donc je pense qu'eux-mêmes sont conscients que s'ils gagnent, en fait, ils vont paralyser, ils vont bloquer le pays. Donc ils sont un petit peu embêtés, ils ne savent pas quoi faire parce que c'est une réalité mathématique et statique compte tenu des scores de premier tour, de la répartition géographique, que ça plaise ou non, il n'y a que le Rassemblement National en fait qui est en mesure d'avoir une majorité absolue lors de législatives qui suivront l'élection présidentielle. Et donc, il n'y a que le Rassemblement National qui peut débloquer le pays et proposer une autre politique. Si eux gagnent, en fait, on va avoir exactement la même situation au niveau de l'Assemblée nationale qu'après 2024, c'est-à-dire la chienlit, la paralysie et l'immobilisme. Et je pense que tous les Français, compte tenu de la situation du pays, sont conscients qu'il y a besoin, au contraire, d'un grand changement, d'une rupture et d'un redressement peut-être sans précédent. Et évidemment, c'est pas avec ceux qui ont ruiné le pays qu'on construira la réussite de demain.
Eh ben, merci beaucoup Charles-Henri Gallois, excellente conclusion et à bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci.
Ligne droite.
Et Ligne droite continue avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal.
Bonjour Richard.
Alors, visiblement, voilà, le réseau de cuivre a été une fois plus saccagé, donc on vous empêche d'apparaître en vidéo. Ça dure depuis combien de temps ?
Ah ben là, ça fait 5 jours et une certaine partie de notre population française ou étrangère a décidé de percevoir le revenu minimum perceptible en prenant un peu de cuivre sur la ligne et surtout en foutant en l'air les armoires électriques, en faisant des courts-circuits. Donc ça fait 5 jours et j'en ai environ pour 15 jours encore minimum.
Bon, alors bon, ne nous laissons pas décourager. Donc Pascal, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Eh ben, je viens d'écouter Charles-Henri Gallois, là, fort justement, dire que tous ceux qui étaient auparavant la gauche a fait sombrer la France. Moi, je voudrais parler de l'éducation nationale et des contradictions du gouvernement Macron à l'heure actuelle. C'est-à-dire que nous avons le gouvernement Macron qui nous dit qu'il faut mettre les bouchées doubles pour mettre les gens au travail, pour pouvoir subvenir à des emplois qui sont vacant à l'heure actuelle et dans le même temps, on se rend compte qu'il rabote les aides à l'apprentissage, qu'il n'y a pas vraiment de concertation concernant notamment en ruralité, puisque quasiment tous nos territoires ruraux sont frappé de fermeture de classe quand c'est pas de fermeture d'école tout court. Chez moi, c'est le cas. On se bat dans nos petits villages pour qu'il n'y ait pas de fermeture de classe. Et dans le même temps, on nous demande de fournir.
Pascal, il nous arrive d'avoir quelques petites coupures, donc avancez tranquillement dans votre chronique et j'espère que les moyens annexes vont permettre d'aller au bout.
Et aussi de mon côté, donc c'est assez problématique. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que François Mitterrand, quand il est parvenu à l'élection présidentielle en 1981, le 10 mai, il a voulu une France de bacheliers, non pas pour rehausser le niveau des élèves français, mais pour falsifier le taux de chômage qui commençait à venir important en France. Donc on a aujourd'hui 92% environ de taux de réussite au bac, et nous avons dans le même temps 70% d'échecs en études supérieures, en université. Donc le constat est celui-là. Au lieu de vouloir amener une majorité, une très grande majorité d'élèves au bac, ne pouvons-nous pas former des élèves qui présentent des lacunes, et quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux la pauvreté de l'orthographe, la pauvreté du vocabulaire, ceci me dit qu'à un moment ou à un autre, on va être obligé de passer par un système qui va contraindre des élèves à prendre des voies d'apprentissage, parce que d'une part, nous en avons besoin, d'une part, c'est une solution aussi pour les retraites, parce que plus tôt vous travaillez, bien entendu, plus tôt vous cotisez, et plus tôt vous pouvez économiquement faire relever la tête d'un pays. Ce n'est pas un étudiant à 25 ans en sociologie qui en est au redoublement ou au triplement de sa seconde année, qui va cotiser beaucoup ensuite pour la sécurité sociale, pour les retraites, pour les caisses de retraite. Et malheureusement, cet étudiant en sociologie qui ne sait même pas quoi faire de ses 10 doigts à 25 ans est un fardeau pour la société, parce que celui-là, il faudra l'assister pendant des années et des années, alors que, par exemple, pour les centrales nucléaires, nous avons dû faire recruter des soudeurs canadiens que nous avons payés très cher, plus de 6 000 euros par mois, pour faire, lorsqu'en 2022, il y a eu le problème des centrales nucléaires françaises qui étaient à l'arrêt. Donc, nous n'avons pas de soudeurs, par exemple, dans le nucléaire. Nous recherchons des chaudronniers de partout, sans parler de tout ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration et ainsi de suite. Donc, au lieu de faire appel à une immigration qui n'a pas plus envie de travailler d'ailleurs que le reste, puisqu'il est prouvé que l'immigration dans les chiffres du chômage est elle aussi en oisiveté. Et là, à un moment ou à un autre, il va falloir prendre des décisions très claires pour notre pays. Il va falloir quand même que l'apprentissage devienne, comme en Allemagne et comme en Suisse, une filière d'excellence. Et au lieu de raboter systématiquement des aides publiques parce que les restrictions budgétaires l'imposent, il faudra quand même se poser la question de savoir où voulons-nous aller. Et quand j'entends le président français qui nous déclare que le pays est attractif, ce qui est faux par ailleurs, puisqu'il est attractif, mais uniquement pour des sociétés qui viennent là budgétiser des aides publiques et dont on voit malheureusement ensuite qu'elles repartent avec ce qu'elles ont touché et on laisse derrière des milliers de chômeurs. Donc le taux de chômage est en train de remonter très très vite à l'heure actuelle en France et il faut absolument se poser les bonnes questions, faire d'un ministère de l'Éducation nationale un ministère de l'instruction civique, de l'instruction nationale, parce que éduquer, ça fait bien longtemps que les professeurs n'éduquent plus grand-chose, et qu'à un moment ou à un autre, nous avons besoin d'avoir une jeunesse qui travaille au lieu qu'ils vivent d'assistanat. L'assistanat, il faut le réserver pour des personnes qui se retrouvent dans la difficulté suite à des problèmes de licenciement et ainsi de suite, et non pas voir des jeunes de moins de 30 ans à l'heure actuelle ne rien faire et n'avoir aucun projet professionnel.
Eh bien, merci beaucoup Pascal Pointu. Bonne chance pour vos connexions et merci pour vos propositions.
Merci.